prie de vous installer et de faire silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, j'ouvre la séance. Nous avons donc sont excusés Jean-Luc Baul qui donne pouvoir à Tanguy Servet, Nathalie Hess qui donne pouvoir à Olivier Raymondeau, Ariel Schwartzberg à Sonia Vasseur, Isabelle Lux à Julien Husson, Barbara Bernardi à Charlotte Leduc, Fatia Ada à Abdelmajid Maouch, Étienne Anstet à Marie-Claude Voinçon, Salvatore Tabonne à Dimitri Sokolovski, Cédric Goutte à Christine Fittante, François Henrion à François Carpentier, Annel Maillère à Philippe Brunella, Attila Sapsi à Corinne Friot, Henri Malassé à moi-même, Geoffrey Schutz à Jean-Louis Ballarini, Antoine Dor à Grégory Keff. Sont également excusés Jacqueline Schneider, Jean Combel, Vincent Dieudonné, Sylvie Roux, Damien Thiel, Jean-Luc Houry. Arrivera en retard Dohan Tran et qui donne pouvoir en attendant à Blaise Tafner. Jérémy Rock sera également en retard et donne en attendant pouvoir à Jean-François Secondé. Shadi Elnar donne pouvoir à Dominique Strebli. Daniel Firtion à Joy Hendrix, Paola Zanetti à Rachel Burgi. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance notre directeur général des services, Damien Parmentier. Je vous propose donc d'arrêter le procès-verbal du Conseil métropolitain du 26 mai 2026. On n'a pas eu de demande de complément de rajout ou de correction. Personne ne s'oppose à son adoption ni ne s'abstient. Il est adopté à l'unanimité. Nous examinerons en fin de séance une motion que je vous propose relative au développement des dessertes ferroviaires transfrontalières et internationales. Et Monsieur Victor Chaumard, conseiller métropolitain, aura une question à poser. Donc, le premier point, c'est la désignation des membres du comité de déontologie de l'Eurométropole. Je vous rappelle que les élus doivent respecter les principes d'indépendance, transparence et de probité encadrés par la charte de l'élu local issue des lois de 2013 et de 2025 intégrées au CGCT et qui a été lue à l'occasion de la séance d'installation du Conseil. Pour vieux respect de ces règles, nous avons créé un comité de déontologie chargé d'émettre des avis préventifs sur les risques de conflits d'intérêts ou de manquements, composé de 3 membres bénévoles, un président et 2 membres, désignés pour la durée du mandat d'exécutif. Ce comité garantit son indépendance. Ses membres ne doivent pas exercer de mandat local, ni être agents de la métropole ou être en situation de conflit d'intérêts. Leur expertise dans les affaires publiques, la justice et les collectivités et leur probité ont servi de critères de sélection. Donc les membres actuels, Mme Mirguet, M. Herzog et M. Guéprat, voient leur mandat arriver à échéance. Il est proposé de les reconduire dans les mêmes conditions pour la durée du mandat, tout en actualisant les statuts comité et la motion est en conséquence. Est-ce que quelqu'un vote contre ou s'abstient? Alors, une abstention. Monsieur Grégoire vous remercie. Et nous passons au point numéro 2. Le transfert ou la délégation de compétences départementales de l'Eurométropole, désignation des élus métropolitains à charger à la. Alors, ce n'est pas la CLEC, c'est la CLECRT. La commission locale pour la révélation des charges et des ressources transférées. Voilà. Après, on aura la CLEC. Nous vous proposons en membre titulaire Jérôme Guerre, Pierre Fachot, Martine Michel, Frédéric Laugin et en suppléant Nathalie Spormeyer, François Carpentier, Marine Weber et Thierry Houry. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour voter à main levée? Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Bon, personne ne s'y oppose. Donc, est-ce que qui vote contre la proposition? Qui s'abstient? Alors, je regarde toutes les oppositions. Voilà. J'ai dit toutes les oppositions. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, bon. Voilà. Donc, on remercie. On passe au point numéro 3. La constitution de la commission locale d'évaluation de charges, donc on appelle aussi la CLECT. Il n'y a pas ? Pourquoi il n'y a pas ? Ah, c'est que les modalités. Bon. Ah oui, c'est les communes qui désignent, effectivement. Vous avez raison, attendez. Alors. Rappel, le renouvellement du conseil métropolitain nécessite la mise en place d'une nouvelle commission d'évaluation de transfert de charges conformément à l'article 1609 non-IC du Code général des impôts. Cette commission, créée entre l'établissement public, le passé intercommunal et les communes membres, est composée de représentants des conseils municipaux avec au moins délégués par commune. La composition de la commission est déterminée par l'organe délibérant de l'EPCI à la majorité des deux tiers. Il est proposé au conseil municipal de fixer comme suit la composition de la commission. Chaque conseil municipal dispose d'un représentant. Voipy dispose d'un représentant supplémentaire. Montigny de deux représentants supplémentaires. Et Metz de quatre représentants supplémentaires. Les conseils municipaux sont invités à désigner leurs représentants. Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient? Ah, là, le RN s'abstient. Je vous remercie. Alors, point numéro 4, désignation dans des commissions d'études thématiques. Donc là, donc on vous propose de désigner M. Marc Badjoli en qualité de membre de la commission Services urbains et transition écologique et M. Chadi Elnar en qualité de membre de la commission Urbanisme et solidarité en lieu et place de la commission Culture, Tourisme et Relations internationales. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci. Ensuite, désignation de représentants d'Eurométropole de Metz dans divers organismes. Alors, on y va. Alors, est-ce que quelqu'un s'oppose à ce que nous votions à main levée ? Personne ne s'y oppose. Bien. Alors, pour désigner Philippe Manzano à l'association Agir. Alors, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Alors, le groupe RN. Voilà. Et le groupe Union de la gauche et des écologistes, c'est ça, je crois. Ensuite, l'association Amorce, titulaire Laurent Bovy, suppléant Frédéric Laugin, qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Ensuite, au comité des partenaires. Alors, c'est le comité qui est régional, oui. Grand Est, région Grand Est Mobilité. Donc, Philippe Manzano, titulaire, Joy Hendrix, suppléant. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Même vote. Ensuite, au comité régional de la biodiversité, titulaire, Nathalie Hess, suppléant, François Henrion. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Même vote. Copropriété du parking 86 Rosarennes, titulaire Gilles Forfer, suppléant Martine Nicolas. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci. Désignation à l'Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité, Marilyn Weber et Philippe Manzano. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Même vote. Ensuite, désignation au laboratoire de génie informatique, de production et de maintenance. Nous proposons Chadi Elnar. Qui vote contre ? Qui s'abstient? Même vote. À l'association La Plateforme Verte, Anne Fruche-Renard titulaire, Frédéric Lauzin suppléante. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. À l'association Réseau Compost Citoyen Grand Est, Dominique Brioux. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. Au syndicat des eaux de Basse-Vigneulles et Foulquemont, au sein de la commission d'orientation, M. Éric Alquédé, qui vote contre, qui s'abstient, même vote. À la commission d'indemnisation amiable des entreprises en remplacement de M. Blaise Tafner, on propose Corinne Friot, qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Au conseil d'administration de l'Université de Lorraine en remplacement de Nathalie Spormeyer, proposons Shadi Elnar, qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Toujours au sein de l'UL, à l'UFR mathématiques, informatique, mécanique, en remplacement de Frédéric Login, M. Jérémy Alloy, qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Et c'est fini. Donc, point numéro 6. Débat et délibération relative à la mise en œuvre d'un pacte de gouvernance entre leur métropole et ses communes. Donc, la loi du 27 décembre 2019 impose aux EPCI d'organiser, après chaque renouvellement des conseils municipaux, un débat et une délibération sur un pacte de gouvernance entre communes et EPCI. Ce pacte, encadré par l'article L5211-11-2 du CGCT, vise à renforcer l'association des maires à la gouvernance intercommunale tout en laissant une large flexibilité au Conseil pour définir le contenu. Le pacte peut couvrir plusieurs domaines, notamment l'avis des communes sur des mesures intercommunales à impact local, la consultation de la conférence des maires sur des sujets d'intérêt communautaire, la délégation de création ou de gestion d'équipements ou services aux communes, la création de commissions spécialisées associant les maires, la création de conférences territoriales des maires selon des périmètres géographiques et des périmètres de compétences déterminés, les conditions dans lesquelles le président de PCI peut déléguer au maire d'une commune l'engagement de certaines dépenses d'entretien courant d'infrastructures ou de bâtiments communautaires, les orientations en matière de mutualisation de services, l'égalité femmes-hommes dans les instances de gouvernance. Pour l'Eurométropole, ce pacte représente une opportunité de renforcer la confiance et la coopération avec ses communes, notamment via un comité de pilotage présidé par Madame la vice-présidente en charge des coopérations et des services aux communes. Voilà. Voilà. La motion est en conséquence. Quelqu'un demande la parole? Ah. Alors. Alors, monsieur. Alors, je regarde, Monsieur Mertz. Ensuite, levez la main. Monsieur Chaumard. Monsieur Grégoire. Voilà. Bon, Monsieur Mertz, c'est à vous. Non, je n'ai pas vu d'autres mains. Pas autrement.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous voilà donc réunis à nouveau dans cette enceinte un peu surchauffée, mais ne nous plaignons pas, nous aurions pu tenir notre réunion la semaine dernière. Le document soumis à notre délibération tient davantage de la déclaration d'attention que d'un projet précis déjà développé à partir duquel nous pourrions faire valoir nos approbations ou nos critiques. Le document contient néanmoins des lignes directrices à partir desquelles il sera envisagé d'élaborer le pacte. À cet effet, à ce stade, la délibération ne fait qu'engager la procédure d'élaboration du pacte de gouvernance. Aucun projet de pacte n'est donc encore soumis à l'examen des communes. Dès lors, il n'est pas possible d'apprécier la conformité ou la légalité des dispositions qui demeurent à définir. Il apparaît néanmoins utile d'identifier les principaux points de vigilance qui devront être pris en considération lors de la rédaction du futur pacte afin de garantir sa sécurité juridique, son efficacité institutionnelle et sa conformité aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. C'est ce que je vous propose de faire à cet instant, et notamment en apportant l'éclairage juridique qui me paraît nécessaire en la matière. À mon sens, 7 points doivent être particulièrement examinés. Le premier, il s'agit de veiller au respect du principe de libre administration des communes. Le futur pacte devra préserver un équilibre entre l'objectif légitime de coordination métropolitaine et le respect du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Les mécanismes de concertation, de coordination ou de consultation qui pourraient être institués ne devront pas avoir pour effet de restreindre les compétences propres des communes, ni de créer directement ou indirectement des mécanismes assimilables à une tutelle d'une collectivité sur une autre. Il conviendra notamment de distinguer clairement les procédures consultatives des procédures décisionnelles et de rappeler que les instances créées par le pacte n'ont pas vocation à se substituer aux organes délibérants légalement compétents. Le deuxième point, il s'agira de définir avec précision la portée juridique du pacte. Le futur document gagnerait à distinguer explicitement les obligations résultant directement du Code général des collectivités territoriales, les engagements politiques ou les orientations de gouvernance et les modalités pratiques de coopération entre la métropole et les communes. Cette clarification apparaît indispensable afin d'éviter toute ambiguïté quant à la valeur normative des différentes dispositions du pacte et de limiter les risques de divergence d'interprétation entre les communes membres. Troisième point, encadrer précisément le fonctionnement des instances de gouvernance. Si le pacte prévoit la création ou le maintien d'instances de concertation, telles que la conférence des maires, le bureau, des commissions territoriales ou des groupes de travail thématiques, leurs modalités de fonctionnement devront être clairement définies. Une attention particulière devra être portée à leur composition, aux modalités de désignation de leurs membres, à leurs compétences respectives, aux règles de convocation, aux modalités de réunion de vote et aux conditions de diffusion de leur avis. Une telle formalisation contribuera à sécuriser les procédures internes et à renforcer la lisibilité de la gouvernance métropolitaine. Ainsi, et je le dis très tranquillement, il n'est pas acceptable que le bureau prenne seul une motion aussi importante que celle que nous découvrirons au point numéro 12 et qui concerne l'autoroute A31 bis. Si on peut admettre que des motions techniques se limitent à un passage en bureau, vous admettrez de votre côté, Monsieur le Président, qu'une motion concernant un point aussi sensible et aussi controversé depuis près de 30 ans mérite un passage devant l'Assemblée. Le pacte de gouvernance devra apporter une réponse à cette question. Quatrième point, sécuriser les éventuels dispositifs de délégation. Dans l'hypothèse où le pacte envisagerait des mécanismes de délégation ou de gestion de proximité au bénéfice des communes ou des maires, ceux-ci devront être strictement encadrés. Il conviendra notamment de préciser le fondement juridique des délégations, leur champ matériel, leurs limites financières, les modalités de contrôle exercées par l'Eurométropole et les obligations de compte rendu. L'objectif est de prévenir tout risque de conflit de compétences ou de contestation relative à l'identification de l'autorité compétente. Cinquième point, garantir l'effectivité de la consultation des communes. La consultation des communes constitue un élément essentiel de la légitimité du pacte. Afin d'éviter toute contestation ultérieure, il est recommandé de formaliser précisément les modalités de transmission des documents, les délais applicables, les conditions dans lesquelles les observations des communes seront prises en compte, les conséquences d'une absence de réponse dans les délais impartis. Une procédure clairement définie renforcera la sécurité juridique de la démarche et garantira la participation effective des communes membres. Sixième et avant-dernier point, intégrer des mécanismes d'évaluation et de suivi. Le futur pacte pourrait utilement prévoir un dispositif de suivi périodique permettant d'évaluer sa mise en œuvre. Une telle démarche présenterait plusieurs avantages. Mesurer l'efficacité des engagements pris, identifier les éventuelles difficultés de fonctionnement, adapter les modalités de gouvernance en cours de mandature, renforcer la transparence des relations entre la métropole et les communes. La création d'un comité de suivi ou la présentation d'un rapport annuel pourrait constituer des outils adaptés à cet objectif. Enfin, dernier point, donner une portée opérationnelle aux objectifs d'égalité entre les femmes et les hommes. Si le futur pacte entend promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les instances de gouvernance, il conviendra d'accompagner cet objectif de mesures concrètes. La définition d'indicateurs de suivi, l'établissement d'un bilan périodique ou encore la fixation d'objectifs de représentation permettrait de garantir l'effectivité de cet engagement. En conclusion, je tiens à dire que l'élaboration du futur pacte de gouvernance constitue une opportunité de renforcer les relations entre la métropole et ses communes membres. Toutefois, la qualité juridique du document dépendra largement de sa capacité à définir avec précision les mécanismes de gouvernance envisagés, à garantir le respect des compétences de chaque collectivité et à assurer la sécurité juridique des procédures mises en place. Dans cette perspective, il apparaît souhaitable que le projet de pacte fasse l'objet d'une rédaction particulièrement rigoureuse et d'une concertation approfondie avec l'ensemble des communes membres avant son adoption définitive. Et je vous prie de bien vouloir noter, Monsieur le Président, que je vous propose de mettre mes compétences, notamment de juriste, au service de ce projet en participant à son élaboration. Merci de votre attention.
Merci, M. Merz. Monsieur Chomard.
Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, bon, il s'agit d'appliquer la loi, dont d'ailleurs on peut se demander si le fonctionnement des EPCI n'était pas déjà assez exhaustif dans la loi pour avoir dû prévoir de créer un pacte de gouvernance entre l'EPCI et ses communes. Mais enfin bref, nous allons nous abstenir. D'ailleurs, l'intervention de notre collègue Mertz était intéressante, mais nous, on va axer notre propos sur une question un peu plus prospective, puisque nous sommes obligés de constater que, en matière de relations entre les communes et la métropole de Metz, l'attitude de l'exécutif de la métropole consiste, on a l'impression, à retarder l'inéluctable et à l'habiller des formes les moins désagréables pour les communes et les élus municipaux. Parce que sans jouer les Cassandres, ce qui est inéluctable, si rien ne change, c'est, je veux dire clairement, hein, la disparition progressive politique des communes de la métropole de Metz. Et il faudrait, à un moment donné, qu'on ait ce débat, qu'il fasse très chaud ou qu'il fasse pas très chaud, parce qu'il est absolument nécessaire. Reprenons, en 2017, les élus qui étaient en fonction à ce moment-là, donc en vérité pas beaucoup de monde si on prend le conseil métropolitain actuel, ont voulu que la CA2M accède au stade ultime de l'intégration intercommunale parce que les voisins à Strasbourg et à Nancy avaient leur métropole, alors paraît-il il nous fallait la nôtre, qui est un argument en soi contestable, mais peut-être aussi parce que l'État avait créé les conditions financières difficiles envers les communes précisément pour les pousser à s'intégrer dans un ensemble intercommunal. De ce point de vue-là, on ne jette la pierre à personne, évidemment. Mais je crois profondément qu'à ce moment-là, en 2017, les élus sont tombés dans le panneau. Parce que quelle est la situation aujourd'hui? On a une métropole de Metz qui exerce la majorité des compétences qui étaient ou qui auraient été celles des communes il y a encore 15 ou 20 ans, que ce soit en tout ou partie, à part la petite enfance, les écoles, les parcs et quelques autres sujets. Sur quasiment tous les autres, la métropole intervient directement ou indirectement. Je ne juge pas le fond de l'action, mais en tout cas, elle intervient. Et la puissance politique de la métropole est désormais indiscutable. En droit, nous sommes toujours un EPCI, je dirais, à l'ancienne, à la papa, mais on va arrêter de se cacher derrière notre petit doigt, puisque dans les faits, nous sommes déjà une véritable collectivité à part entière. À tel point que, selon notre opinion, le système est en train de s'inverser. C'est-à-dire que les communes sont en train, en fait, de devenir les établissements publics de la métropole. Alors, cette collectivité, vous la gouvernez de manière assez équilibrée entre la métropole et ses communes. Ça, nous le reconnaissons volontiers. Il y a une réelle volonté d'associer tout le monde aux décisions. Mais le discours qui consiste à dire que la métropole, je cite, « ne remplacerait pas les communes et qu'elle ne ferait qu'aider les communes à faire ce qu'elles ne peuvent pas faire seules ou qu'elles feraient moins bien seules », c'est votre citation, vise à faire un peu oublier le processus politique qui est à l'œuvre. Et si vous défendez le principe très sain d'un EPCI, c'est contradictoire, d'une part, avec les grandes ambitions politiques que s'est donné la métropole en matière d'attractivité, en matière de logement, en matière de sécurité même, et d'autre part, avec ce que la métropole est concrètement en train de devenir politiquement parlant. Parce que ce qu'elle est en train de devenir politiquement parlant, c'est une forme de nouveau centralisme politique. Partout où les métropoles sont instaurées en France, partout, vous pouvez observer, les métropoles sont en train de concentrer des ressources et des compétences qui sont en disproportion totale avec celles, souvent, de leur environnement proche dans la ruralité. Et ce à quoi nous assistons, c'est à l'émergence, en fait, de nouvelles suzerainetés dans lesquelles les communes membres peuvent de moins en moins se singulariser par rapport aux autres. Alors qu'on me comprenne bien, une collectivité supracommunale, un EPCI, c'est absolument indispensable, parce que voilà, l'évidence, c'est qu'il y a des compétences qu'on ne peut pas gérer, qui n'auraient aucun sens d'être gérées à l'échelle d'une seule commune. Mais en revanche, il faut bien pointer quelques contradictions qu'il y a dans ce conseil métropolitain et qu'il y a dans tous les conseils métropolitains de France. Notamment ce que personne ici n'a, à ma connaissance, encore visiblement osé aborder, qui est la légitimité. Parce que quelle est la légitimité démocratique de ce que nous votons ici, conseil après conseil? Et qui a pourtant un impact majeur sur la vie des habitants. Alors les maires qui siègent ici, je le dis tout de suite, les maires qui siègent ici ont une légitimité électorale qui est incontestable, parce qu'ils ont été élus de manière transparente, sur un programme et un choix éclairé des électeurs. Mais, là je suis navré de le rappeler, ce conseil métropolitain, personne ne peut affirmer qu'il a été élu sur la base d'un projet politique métropolitain qui aurait fait l'objet de confrontations d'idées, et qu'on ne me fasse pas croire que le fléchage y change grand chose. Et je m'inclus dedans, d'ailleurs. Nous-mêmes, nous n'avons pas été élus sur un projet politique métropolitain. Alors, vous avez qualifié la métropole de formidable communauté humaine, je cite. Alors, c'est très bien, mais est-ce que quelqu'un, ici, peut m'expliquer pourquoi le président ou le conseil n'appelle pas le législateur à assumer jusqu'au bout ce concept de communauté humaine et à faire en sorte que nous soyons, par exemple, élus directement à l'échelle de toute la métropole. Combien d'entre vous y seraient favorables ici? Ce serait une question intéressante. Alors nous y serions opposés, nous le disons tout de suite, nous y serions clairement opposés, mais ça aurait le mérite, ça aurait le mérite de la cohérence. Et là, je vais conclure. Vous en faites pas, je serai pas trop long. Je vais conclure en me demandant quel sera l'avenir. Parce que on est là pas seulement pour voter des points techniques, vous comprenez bien. Quel sera l'avenir? Nous pensons que s'il n'y a pas de changement législatif majeur, ça ne dépend pas forcément, évidemment, que de nous, mais s'il n'y a pas de changement législatif majeur, le processus, il ira à son terme. Et son terme, c'est que, alors là, c'est un pari personnel, c'est que dans 15 ou 20 ans, c'est pas forcément très loin, les communes de la métropole de Metz n'existeront plus, en fait, dans les faits. C'est-à-dire que, quand je dis qu'elles n'existeront plus, c'est-à-dire que je veux dire qu'il ne sera plus possible d'exercer le pouvoir dans une commune, autrement dit qu'il ne sera plus possible d'y mener des politiques autonomes, indépendantes des autres communes et indépendantes de ce que la métropole aurait décidé. Et vous comprenez bien que le flou juridique qu'il y a et qui est contradictoire avec la réalité politique ne pourra pas durer encore éternellement. Parce que durant ce mandat, ou peut-être durant le prochain, l'État dira « Ah ben vous les métropoles, ça fait déjà un paquet de temps que vous existez, vous concentrez des ressources et des compétences qui sont majeures, eh ben dans ce cas-là, tirons-en les conséquences. » Et alors, qu'est-ce qui se passera? Il y a deux scénarios. Soit Metz fusionnera concrètement avec les 45 autres communes de la métropole pour faire une commune nouvelle sur le territoire de la métropole, ou bien, c'est le plus probable à mon avis, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura plus 46 élections municipales, mais une élection métropolitaine. Et alors, bien sûr, on gardera encore des communes qui seront toujours là, avec un maire délégué, comme des sortes d'arrondissements. Mais, d'une manière ou d'une autre, il ne sera plus possible d'y exercer véritablement le pouvoir. Je sais que ce ne sont pas des paroles forcément agréables à entendre, mais je vous décris quel est le processus qui est en cours. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fera? Est-ce qu'on dira « Ah bah non, il ne faut surtout pas supprimer les communes parce que ce sont les cellules de base de la République » Oui, c'est vrai. Mais enfin, il sera un peu tard pour se poser cette question. Parce qu'en réalité, on ne fera qu'acter une réalité qui sera déjà là depuis longtemps. Alors en conclusion, et là je termine vraiment, puisque je vois que vous êtes tous impatients et que vous ne voulez pas tellement avoir ce débat, alors plutôt que des pactes de gouvernance et autres titres ronflants comme ça, qui sont certes imposés par la loi, nous pensons, Monsieur le Président...
Seul Monsieur Chomard a la parole, voilà. Merci.
Et nous pensons, Monsieur le Président, que vous devriez assumer, ce serait une question de cohérence politique, le processus politique qui est en cours, voilà, qui est implacable selon nous, si rien ne change, encore une fois, si rien ne change du point de vue de la loi, de ce point de vue-là, et qu'on sorte un peu de contradiction, parce qu'il est peut-être encore temps de faire marche arrière et d'éviter que nos communes ne soient plus réellement des objets politiques à part entière. Merci.
Merci, Monsieur Chomard. Monsieur Grégoire.
Monsieur le Président, mes chers collègues, je vais rentrer dans le concret. Ça va être beaucoup plus simple et ça va être relativement clair. Le document qui a guidé notre précédente mandature s'intitulait justement « Un pacte de confiance et de cohésion » et mettait en avant le principe de subsidiarité. Le débat d'aujourd'hui est l'occasion de vérifier si ce principe résiste à la réalité du terrain, particulièrement sur la question des délégations d'entretien courant. Confier ces dépenses aux communes est une bonne chose, fidèle à cette promesse de subsidiarité. Mais force est de constater qu'elle se heurte, aujourd'hui au mur de la réalité financière. Prenons l'exemple concret de la convention relative au petit entretien de la voirie. Pour ma commune, cette enveloppe tourne autour de 23 300 euros par an sur l'ensemble du mandat 2020-2026. La seule évolution en 6 ans aura été un avenant, à l'automne 2024, qui a mobilisé vos services et nos conseils municipaux pour nous octroyer royalement 332 euros de plus, afin de corriger une simple erreur de calcul de population datant de 2018. Mieux encore, ce même avenant a pris le temps de recompter nos arbres d'alignement, d'y appliquer votre coefficient de lissage, pour finalement déduire cette somme de notre dotation au centime près. Vous avez repris d'une main ce que vous faisiez semblant de donner de l'autre. La métropole mobilise donc toute une procédure pour ajuster quelques centaines d'euros et facturer quelques arbres, mais passe sous silence l'essentiel, l'inflation historique et l'explosion des coûts des matériaux et des enrobés que nous subissons de plein fouet. Pris dans cet effet ciseau, correctif administratif dérisoire d'un côté, coût d'intervention qui explose de l'autre, notre capacité réelle d'action s'est effondrée. En première ligne, face à la dégradation de nos voiries, nous sommes financièrement démunis pour entretenir l'espace public qui se trouve justement sous ces fameux arbres d'alignement. Pour que ce nouveau pacte de gouvernance soit un véritable outil de confiance et d'efficacité, ma question est double. Allez-vous enfin abandonner les simples correctifs administratifs pour intégrer un véritable mécanisme d'indexation annuelle et systématique de ces conventions liées à l'inflation réelle des travaux publics ? Au-delà de cette actualisation, envisagez-vous de rehausser le montant de base de ces enveloppes pour nous permettre de rattraper le lourd retard d'entretien accumulé durant ce mandat ? Car soyons clairs, si ce futur pacte devait se contenter de figer cette impasse financière, l'esprit même de notre coopération serait rompu. À l'impossible, nul n'est tenu. Chacun d'entre nous pourrait alors légitimement conclure qu'il serait plus simple de dénoncer cette convention et de laisser à la métropole le soin d'en assumer la gestion en direct. Je vous remercie.
Bien. Merci, Monsieur Grégoire. Alors, répondre successivement. D'abord, Monsieur Merz, j'ai un principe qui est que nous étouffons sous la réglementation que nous impose l'État, qui nous dit, qui nous complique, qui ralentit chaque action, qui crée de l'insécurité juridique. Et donc, je ne souhaite absolument pas que nous rajoutions de la réglementation à la réglementation en sécrétant la nôtre. Alors, il y a ceux qui pensent que l'on agit que dans le cadre de réglementation et par la comitologie. Moi, je passe mes journées à essayer de combattre la propension naturelle qu'on peut avoir à se créer de la réglementation interne à nos propres entraves ou à générer de la comitologie qui n'est pas nécessairement utile. Voilà. Donc, on ne va certainement pas... c'est précisément en créant un pacte s'imposant un certain nombre de procédures que nous nous créerions une insécurité juridique que nous n'avons pas aujourd'hui. Donc voilà. Donc et d'ailleurs tous mes collaborateurs le savent bien. Ils ont la stricte interdiction de créer n'importe quelle nouvelle contrainte qui demain peut nous empêcher d'aller au plus court pour trouver une solution, alors que nous l'aurions eu si nous n'avions pas eu cette contrainte que nous étions créés à nous-mêmes. Voilà. Donc alors pour autant. Je le dis et je le redis, et c'est une façon de répondre également à M. Chomard, connaissait mes principes, il les a d'ailleurs rappelés, que l'intercommunalité est là, non pas pour faire à la place des communes et pas pour les absorber, mais pour faire ce que les communes ne peuvent pas faire seules ou ce qu'elles feraient moins bien seules, et non pas pour les faire disparaître. Mon prédécesseur à la mairie de Metz avait déclaré lors d'une conférence des maires aux autres maires de la métropole, qui était encore la CA2M, de toute façon, vous êtes condamnés à disparaître. C'est presque, alors, ne m'enquiquinez pas. Bon, c'est sûr que ça, c'était pas le genre de réflexion qui pouvait créer un sentiment de confiance, un climat de confiance entre la commune centre et les communes périphériques. Ma vision est absolument opposée. J'ai été maire d'abord dans une commune périphérique, je suis encore président des maires de la Moselle, et je considère que toute commune dès lors qu'elle trouve son mode de fonctionnement, même des communes de quelques dizaines d'habitants dans le Saônois et dans le centre mosellan, qui fonctionne comme une copropriété avec un syndic bénévole et où chacun nettoie à son tour la cage d'escalier ou là plutôt avec les engins agricoles nettoie la commune. Ça fonctionne mieux et ça coûte moins cher d'avoir recours à des fonctionnaires territoriaux pour faire le même travail. Mais pour fonctionner, il faut qui existe partout, Monsieur Chaumard, les intercommunalités, pour justement faire ce que les communes ne peuvent pas faire seules. Et s'il n'y avait pas eu ce niveau d'intercommunalité, eh bien, beaucoup de communes là auraient été condamnées à disparaître. Donc c'est le cadre intercommunal qui permet à certaines communes, même petites, de continuer à exister, alors que sans intercommunalité, il fallait nécessairement les fusionner. Nécessaire d'ailleurs de dire et de redire qu'on a un vrai conseil d'orientation à la métropole qui est la conférence des maires, et où chaque maire pèse la même chose. Voilà. Maire de Ventoux avec ses 400 habitants, ou le maire de Metz avec ses 120 000. Cela dit, à M. Grégoire, faut-il encore que la commune siège pour se faire entendre à la conférence des maires. Donc c'est quand même plus facile de se faire entendre quand on est là que quand on pratique le siège vide. Alors vous me... Il n'y a aucun risque, Monsieur Merz, que la métropole porte atteinte au principe constitutionnel de libre administration des communes. Je vois plutôt l'État porter tous les jours atteinte à ce principe, au principe de libre administration des collectivités territoriales, tel point d'ailleurs que moi qui me suis engagé dans les rangs gaullistes, je suis devenu fédéraliste, puisque je pense qu'il faudrait en fait qu'on ait la garantie constitutionnelle de ce que, et le système fédéral l'apporte, de ce que l'État n'intervient pas dans tous les détails de la vie civile et respecte le principe de subsidiarité. Et puisse se concentrer sur le régalien. Aujourd'hui, il est tellement faible alors qu'on l'aimerait fort, pendant qu'il se disperse sur tous les sujets non régaliens et qui, au lieu d'être efficace, nous complique les choses, nous ralentit, et qu'il s'agisse ou nous interdit, qu'il s'agisse d'ailleurs des collectivités publiques ou des entreprises, nous vivons ces mêmes contraintes étouffantes. Donc il n'y a aucun risque, il n'y a jamais aucun sujet d'entrave à l'autonomie des communes, bien au contraire. Un certain nombre de services que nous mettons à leur disposition, bien au contraire, a vocation à les rendre plus efficaces dans leur mission souveraine. L'essentiel des compétences, les compétences qui sont à la métropole, sont celles que les communes pouvaient difficilement assumer seules. Quoi, les transports en commun, c'est une évidence. La collecte et le traitement des déchets, les traitements des eaux, même le logement et l'habitat. Même si la commune doit garder la main à pouvoir de décision, questions de logement et d'habitat, comme les questions d'emploi et économique, ne peuvent se traiter dans l'intérêt des habitants à la seule échelle d'une commune. D'ailleurs, combien a-t-on encore d'habitants dans une commune qui travaillent strictement dans leur commune ? Extrêmement peu. Donc ces questions doivent être réglées à l'échelle d'une agglomération ou d'une métropole. Je ne vais pas passer en revue toutes les compétences. D'ailleurs, la métropolisation a eu pour effet moins de faire monter des compétences de la commune à la métropole que du département à la métropole, et donc les rapprochant du terrain dans un principe de subsidiarité. Donc, quand vous me dites, Monsieur Chaumard, vous devriez assumer cette fusion programmée, attendez, vous me connaissez trop bien. Vous avez été mon assistant parlementaire pendant les débats sur la loi NOTRe ou sur les débats sur le PLUI. Vous savez fondamentalement quelle est ma conception des rapports entre la commune et l'intercommunalité. Je vais certainement pas assumer une position que je ne partage pas. Et je ne suis pas présenté à la présidence de la métropole pour fusionner les communes, mais précisément pour nous donner une force collective qui nous entraîne tous, mais pour conforter chaque commune. Et je suis tellement persuadé du bien fondé du principe de subsidiarité que dans ma grande commune de Metz, j'ai créé des mairies de quartier avec une fonction généraliste pour pratiquer aussi la subsidiarité sur la commune de Metz, parce que tout ne peut pas efficacement remonter au niveau de la mairie centrale. On a des pertes en ligne sur les processus de remontée d'informations, puis de descente des directives. Donc quand on peut décider au plus près du terrain, c'est toujours plus pertinent et plus rapide. En fait, quant à M. Grégoire, je voudrais quand même vous dire que vous êtes mal inspiré de prendre l'exemple de la voirie, puisque la métropole a décidé de doubler la mise sur les travaux de voirie. En clair, quand il y a eu le transfert de voirie, comme vous le savez, la métropole se finance comment ? En retenant des dotations de compensation qu'elle reverse aux communes, le coût, le montant des compétences transférées. Pour la ville de Metz, elle a retiré ce que la ville de Metz mettait dans l'entretien de la voirie. Et bien, pour les communes autour, elle a décidé de mettre le double des dépenses qu'engageaient les communes. C'est-à-dire que la métropole met deux fois plus dans les communes autres que Metz sur la voirie que ce que les communes auraient continué à mettre seules et ce qu'elles avaient moyen de les mettre seules quand elles exerçaient cette compétence. Donc cet exemple est particulièrement malvenu. Et donc si effectivement les coûts sont inflationnistes, ils le sont surtout, ils le sont sur l'énergie, ils le sont sur le bâtiment, ils le sont sur les salaires, avec notamment les évolutions de la CNRACL, notamment. Donc, nous avons à traiter ensemble de questions budgétaires. Mais je le redis, les communes autres que Metz bénéficient de deux fois plus d'investissements sur leur voirie qu'elles ne bénéficiaient avant que la métropole ne prenne la compétence. Voilà ce que je voulais vous répondre avant de passer au vote. Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc, M. Grégoire et le groupe RN. Voilà. Je vous remercie. Alors, point numéro 6. Non, c'est le 7. On a passé le 6. Décision modificative numéro 1, Thierry Oury. Pardon, je n'ai pas répondu à un sujet, à M. Mertz, sur le fait que nous ayons passé la motion à 31 bis en bureau et pas en assemblée plénière. Nous l'avons fait pour une raison de calendrier. Il fallait qu'elle soit déposée à deux jours près pour qu'elle soit intégrée dans le dossier d'enquête publique. Cela dit, j'aurai aucune difficulté à reprendre ce débat en plénière, je ne le redoute absolument pas. Et d'ailleurs, nous l'avons déjà eu en plénière dans le mandat précédent. Voilà. Donc, mais voilà la raison, c'était une raison de calendrier. En général, les motions, je veux dire, sont toujours adoptées, sauf type de contrainte, dans l'assemblée plénière. Voilà, Monsieur Horry.
Oui, merci. Ça fonctionne ? Oui, voilà. Merci, Monsieur le Président. Donc, suite à l'approbation du budget primitif 2029 le 29 avril dernier, une décision modificative est proposée. Elle a pour objet l'ajustement à la marge de certaines prévisions de dépenses ou de recettes dont l'engagement doit être opéré pour une mise en œuvre avant la fin d'exercice. Cette première DM, elle porte sur le budget principal, le budget annexe transport public et archéologie préventive. Alors, s'agissant du budget principal, les ajustements s'équilibrent à 1 790 000 en fonctionnement et 7 700 000 en investissement. En investissement, les principales évolutions traduisent à la fois des réévaluations, des décalages de calendrier et des ajustements techniques. Parmi les opérations majeures, d'abord la qualification de l'Opéra Théâtre qui est valorisé de 3 millions d'euros portant sur les crédits 2026 à 11,5 millions d'euros. Les subventions versées aux bailleurs sociaux sont ajustées de 212 000 euros. L'inscription de travaux de voirie à voie pile dans le cadre du programme de renouvellement urbain de plus 357 000 euros. Les études relatives au futur siège de la police métropolitaine qui nécessitent un complément de crédit de paiement à hauteur de 195 000 euros. Parallèlement, certains projets voient leurs crédits réajustés à la baisse en raison de la redéfinition du calendrier de travaux. Je pense à la passerelle Vadrino, moins 2 810 000 euros, du retard dans la livraison de certains véhicules liés à la collecte des déchets, moins 800 000 euros, ou encore au report de certains travaux, notamment concernant la maison de l'archéologie préventive, moins 400 000 euros. En fonctionnement, Toujours pour le budget principal, les ajustements répondent principalement à des évolutions conjoncturelles et contractuelles. La hausse des prix du carburant entraîne une augmentation de 230 000 euros. La charge de la dette est revue à la hausse en raison de l'évolution des taux et de la conclusion de nouveaux emprunts, plus de 100 000 euros. À l'inverse, la piscine métropolitaine bénéficie d'une baisse de charges de fonctionnement du fait d'un léger décalage de son ouverture, moins 270 000 euros, accompagné d'un ajustement en conséquence des recettes, moins 68 000 euros. La baisse de la TVA sur l'incinération libère 90 000 euros de crédit. Il y a également quelques ajustements plus ponctuels qui sont également à noter, notamment 20 000 euros sont ajoutés pour la tenue du stand de l'Eurométropole lors de la belle manifestation Terre de Gym 11, 12 et 13 septembre et 30 000 euros sont inscrits pour financer une étude d'opportunité relative à l'installation d'une école vétérinaire. Côté recettes de fonctionnement, plusieurs notifications officielles conduisent à des réévaluations positives. La fraction de TVA perçue en compensation de la suppression de la taxe d'habitation et de la CVAE est ajustée à la hausse de 683 000 euros. Les compensations fiscales progressent de 547 000 euros et la DGF est réévaluée de 547 000 euros. Elle passe à 23 920 000 euros. En complément, des opérations d'ordre sont intégrées afin d'assurer les écritures nécessaires au suivi des études, à la régularisation d'avances et à la sortie d'actifs. Ça, c'était pour le budget principal. Concernant le budget annexe des transports, la décision modificative s'équilibre à 292 000 euros en fonctionnement et 2 380 000 en investissement. En fonctionnement, ce sont également les intérêts d'emprunt qui sont réévalués, plus 300 000 euros, comme pour le budget principal, alors que les indemnisations des entreprises liées aux travaux du Métis-C sont revues à la baisse, moins 250 000 euros. 292 000 euros sont inscrits en recettes afin d'annuler partiellement le rattachement de dépenses réalisé fin 2025. En investissement, toujours dans le budget annexe transport, l'avance prévue pour l'achat de bus à hydrogène est supprimée, ce qui réduit d'autant l'emprunt d'équilibre, qui passe à 29 410 000 euros contre 31 660 000 au budget primitif. Et comme sur le BP, les crédits sont ajoutés en opération d'ordre afin de procéder à la réintégration des frais d'études et à la résorption des avances versées sur les marchés d'investissement. Et enfin, le budget annexe d'archéologie préventive reste quant à lui équilibré avec un simple ajustement de 1 000 euros pour les amortissements. Enfin, plusieurs évolutions concernant les autorisations de programme et d'engagement. D'abord, l'opération de revitalisation commerciale est revalorisée à 19 660 000 euros. Une nouvelle enveloppe de 50 000 euros est créée pour un audit de l'aéroport Messlin-Sillorène. Et l'engagement relatif à l'euromarathon est ajusté à 445 000 euros pour la période 2026-2028 en légère donc diminution. Donc, nous avons plusieurs motions. La motion 1, ce sont les décisions modificatives que je viens d'évoquer. La motion 2, ce sont la modification des autorisations de programme et crédits de paiement. Et ces deux motions sont en conséquence, Monsieur le Président.
Merci, Monsieur le Vice-président. Alors, qui demande la parole? Allez-y, Monsieur Roch.
Monsieur le Président, je concentrerai mon intervention sur l'aéroport de Messe-Nancy-Lorraine. En effet, cette DM propose de créer une autorisation de programme afin de financer en partie l'audit relatif à l'optimisation des ressources et au développement des activités de l'aéroport de Messe-Nancy-Lorraine, porté par la région Grand Est pour 50 000 euros. Nous cofinançons ici les études sur l'aéroport qui appartient au Conseil régional. Au-delà de l'impact environnemental, car j'admets très facilement que ce n'est pas en fermant un aéroport que nous supprimerons le trafic aérien, nous nous interrogeons sur le modèle économique qui consiste à injecter des dizaines de millions d'euros d'argent public dans un aéroport structurellement déficitaire depuis des dizaines d'années. Chaque année, la région Grand Est dépense pas loin de 5 millions d'euros pour l'aéroport, ce qui fait plus de 230 euros par passager de l'aéroport si on fait le calcul sur l'année dernière. Et vous nous proposez maintenant de prendre part à ces pertes colossales d'argent public, de prendre part aux études ici, mais c'est un premier pas vers le partage des coûts de fonctionnement, nous le savons tous. ce que nous appelons pour nous la socialisation des pertes. Et contrairement à ce que le mot pourrait laisser penser, c'est plutôt une stratégie de droite. On mutualise les déficits avec l'argent du contribuable dans plusieurs collectivités, tout en laissant l'ensemble des éventuels profits au secteur privé. Nous avons un aéroport luxembourgeois, tout aussi proche, qui va bien. Nous n'avons pas besoin d'un aéroport qui ressemble plus à un gouffre qu'autre chose, financé avec nos impôts.
Bien, Madame Sallusti.
Monsieur le Président, mes chers collègues, 2 mois après avoir mené le débat d'orientation budgétaire et voté le budget primitif de l'Eurométropole, nous voilà déjà réunis et sollicités pour en acter des modifications présentées comme techniques à la marge, prenant en compte l'avancée des projets ou de nouvelles recettes fiscales. Nous avons examiné ces modifications marginales. D'abord, nous nous sommes étonnés qu'elles n'aient pas été suffisamment anticipées dès le vote initial du budget en avril dernier. Ensuite, ces mouvements financiers nous posent un certain nombre d'interrogations. Par exemple, la requalification de l'Opéra Théâtre reçoit une rallonge massive de plus de 3 millions d'euros de crédits de paiement pour 2026, portant l'effort annuel à 11,5 millions d'euros. À l'inverse, l'enveloppe globale dédiée au logement social, soutien à l'habitat, voit son montant affecté global baisser de près de 3 millions d'euros, passant ainsi de près de 13 millions à moins de 10 millions d'euros. Si on se réjouit de faire de l'opéra théâtre un outil du XXIe siècle, voire du XXIIe, on ne saurait valider de le faire au détriment de l'enveloppe globale de soutien au logement social, revue à la baisse. L'autorisation de programme, un autre exemple, pour la concession de redynamisation de l'artisanat et du commerce, bondit de près de 3,5 millions pour atteindre un coût total de 19,6 millions d'euros. La participation directe de l'Eurométropole double, passant ainsi de 5 millions à presque 10. Ce modèle de redynamisation commerciale ne coûte-t-il pas de plus en plus cher aux contribuables métropolitains pour des résultats privés incertains ? Les deniers publics doivent-ils pallier le manque d'investissement privé ? Ce rééquilibrage, somme toute brutal, après à peine 2 mois après avoir voté le budget, est-il fondé ? Le financement, ça vient d'être dit par mon collègue Jérémy Roch, le financement de cette nouvelle étude sur l'aéroport Metz-Nancy-Lorraine, alors que le travail mené par la Chambre régionale des comptes semblait assez définitif sur les possibilités de développement de cette infrastructure. N'est-ce pas gâcher 50 000 euros pour arriver aux mêmes conclusions qu'elle et que nous connaissons déjà tous? Plus grave encore, pourquoi de telles annulations sur les avances reliées au renouvellement du matériel roulant? On parle tout de même de près de 2,5 millions d'euros. Doit-on encore comprendre que la livraison de ce matériel prend du retard? Ce serait grave car nos concitoyens attendent de nous une véritable amélioration de la qualité de cet indispensable service public du quotidien qu'est la mobilité collective. J'aurais pu continuer sur de nombreux sujets. Monsieur le Président, chers collègues, nous connaissons parfaitement les impératifs et l'importance de modifier les budgets ayant été en responsabilité, mais cette décision modificative semble non seulement traduire des impréparations, mais surtout des renoncements et des choix de priorité que nous ne partageons pas et qui se fait au détriment du développement de notre métropole. Merci.
Monsieur Lebeau.
Monsieur le Président, chers collègues, je tiens à saluer l'engagement des partenaires qui ont contribué au cofinancement de l'étude sur l'avenir de l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine. Cette démarche est essentielle, car il n'y a pas de métropole sans infrastructure structurante. Une métropole a besoin d'équipements qui garantisse son attractivité, sa compétitivité et son ouverture sur le monde. Imaginez Metz sans fleuve, imaginez Metz sans la 31, imaginons Metz sans aéroport. Certains considèrent que l'offre aéroportuaire du Luxembourg pourrait répondre aux besoins de notre territoire. Soyons lucides, ce n'est pas le cas. L'aéroport de Luxembourg connaît déjà une forte pression de fréquentation et que pour de nombreux habitants de notre métropole, prendre un vol au départ de Luxembourg représente souvent près de 4 heures de contraintes avant même l'embarquement. Environ 2 heures pour se rendre à l'aéroport et 2 heures d'attente du vol. Donc pour un vol professionnel, c'est inenvisageable. Cette réalité démontre que l'aéroport du Luxembourg, aussi performant soit-il, ne pourra jamais être l'aéroport de notre métropole. Notre territoire doit pouvoir compter sur ses propres infrastructures de mobilité adaptées à ses besoins et à ses ambitions. Imaginez que notre territoire n'est pas l'aéroport, comment Léon XIV arriverait-il à Metz ? C'est précisément l'intérêt de cette étude, disposer d'une analyse objective et partagée pour définir l'avenir de l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine et mesurer pleinement sa contribution au développement économique, à l'attractivité et à la cohésion de notre territoire. Je remercie l'ensemble des partenaires pour leur engagement dans cette réflexion stratégique qui dépasse les intérêts particuliers et s'inscrit dans une vision d'avenir pour notre métropole et pour notre région.
Merci Monsieur Lebeau. Monsieur Horry.
Oui. Alors, donc, je ne ferai que paraphraser mon collègue Monsieur Lebeau. Pour l'aéroport régional, on ne peut pas avoir des ambitions, promouvoir l'attractivité et demain enlever un outil important de l'attractivité de notre territoire. C'est impensable. Et encore une fois, ça montre d'ailleurs dans cette opération que l'aéroport régional relie en fait l'ensemble des collectivités locales de notre secteur. Et donc c'est important effectivement de pouvoir participer en espérant effectivement que l'avenir soit meilleur pour cet aéroport régional. C'est ce que nous souhaitons, en tout cas si ce n'est pas tous, en tout cas la majorité d'entre vous. Alors je n'ai pas noté toutes les éléments donnés par Madame Sallusti. En ce qui concerne logement social, il n'y a pas de baisse, il y a une augmentation de 212 000 euros pour donc cette décision modificative. Et en ce qui concerne l'investissement public pour la requalification des centres-villes, il y a en face les subventions qui nous sont accordées. Et donc, autant les utiliser. Pour finir, je vous rappelle que c'est effectivement une décision modificative et pour l'essentiel, à la marge, et pour l'ensemble des collègues qui sont en responsabilité, notamment quand on voit les attributions de dotation de l'État, etc., elles nous viennent particulièrement tard. Et c'est toujours, d'ailleurs, c'est une des raisons de cette décision modificative, pas la seule, mais en tout cas l'une des raisons principales. Et donc, on ne pouvait en tout état de cause, pas prévoir les réajustements de dotation de l'État. Donc c'est aujourd'hui que ça passe, parce que c'est venu bien tard, comme souvent d'ailleurs. Voilà, Monsieur le Président.
Oui, merci d'avoir répondu. Je ne sais pas, effectivement, Mme Sallusti, vous êtes allé chercher une baisse des crédits du logement social quand nous les augmentons. Et on les aurait certainement pas baissés pour financer l'Opéra Théâtre. C'est bien notre sujet. Je suis le premier à regretter le coût d'Opéra Théâtre, mais il faut dire que les exigences de l'État, elle a des différents services de l'État, parfois dans la contradiction, mais leurs exigences s'additionnant nous a fait monter de près de 40%, si ce n'est pas davantage, le coût de cette indispensable restauration. Mais je veux surtout répondre aux uns aux autres sur l'aéroport régional parce que les bras m'en tombent. Heureusement que vous ne présidez pas cette métropole et au décès de David Lemesse. Parce que vous nous assureriez, je veux dire, un déclin en nous coupant en fait de ce qui fait notre attractivité, notre rayonnement. Premier lieu, les voies de communication. Cimes, c'est ce qu'elle est depuis 2000 ans. C'est d'abord parce qu'elle était à la croisée des principales routes nord-sud et est-ouest de l'Empire et que Metz sous l'Empire au Moyen-Âge, Metz plus tard, les nerfs suivants sous la République messine, était déjà, on dirait aujourd'hui, un grand hub européen. Et c'est parce que c'était ce carrefour européen que Metz a bâti sa prospérité. Et aujourd'hui encore, la logistique représente un secteur très, très substantiel d'emploi dans notre ville. Et que par ailleurs, des métropoles qui se veulent attractives doivent cocher un certain nombre de cases et dont les voies de communication et l'aéroport fait partie. Alors je vais vous redire ce que j'ai l'occasion de dire d'ailleurs au Conseil régional, faisant modifier position du Conseil régional. Alors d'abord, Madame Sallusti, vous n'avez pas lu le rapport de la Chambre régionale des comptes. Parce que le rapport de la Chambre régionale des comptes ne dit absolument pas qu'il faut fermer cet aéroport. Il dit que cet aéroport est riche de potentialités et qu'il a besoin notamment d'une politique commerciale dynamique qu'il n'a pas eue jusqu'à présent. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai redit au Conseil régional. Ensuite, Monsieur Roch, vous êtes extraordinaire, parce que pour vous, comme pour Mme Sallusti d'ailleurs, les avions, ça pollue quand ils décollent du Sud-Messin, ça ne pollue pas quand ils décollent de Luxembourg ou alors de Nancy-Tomblaine. Je rappelle quand même que le Grand Nancy paye 700 000 euros par an, 600 à 700 000 euros par an, pour maintenir un aéroport à Tomblaine, uniquement pour les évacuations sanitaires et l'aviation d'affaires, service que peut parfaitement rendre l'aéroport régional, et vous ne trouvez rien à dire, au moins Madame Sallusti, à ce financement, et en défendant un aéroport nancéen, alors que l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine a été le premier fruit dans l'histoire d'une coopération entre Metz et Nancy. Et effectivement, je m'irrite de voir à la fois les élus nancéens et les élus de la gauche messine s'employer à tuer cette infrastructure qui est indispensable et qui a été réalisée dans le cadre de cette coopération. Donc, alors même qu'on défend les avions ailleurs. Sur les avions à transition écologique, alors il y a les Verts qui pensent que le trafic aérien va complètement disparaître ou doit disparaître. Je vais vous dire, vous en avez un gros enseignement, c'est que la liberté de se déplacer est une liberté fondamentale, que vous n'enlèverez jamais l'aspiration de nos concitoyens à passer de ville en ville, à passer de région en région, à aller visiter d'autres pays et visiter d'autres continents aussi. Et que simplement, oui, les transports doivent également connaître une transition écologique. Et que celle de l'avion, notamment avec l'hydrogène, arrivera un jour. Mais l'avion ne disparaîtra pas. L'avion changera de mode de motricité. L'avion évoluera aussi. L'avion ne disparaîtra pas. Et pour répondre à une demande sociale, puisque nous sommes ici en Lorraine, vous savez que l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine, ou Lorraine Airport maintenant, ou Lorraine Aéroport, fonctionne. Et il fonctionne d'abord aujourd'hui avec les liaisons vers l'Algérie et vers le Maroc. Et heureusement qu'elles ont été réouvertes. Parce que c'est vraiment une nécessité de service public vis-à-vis d'une population pas du tout argentée. Quand les Chibanis retournent deux fois par an dans leur pays d'origine, et lorsque, après la Covid, les lignes avaient été rétablies à Orly-Sud et pas à Metz-Nancy-Lorraine, eh bien, discuter avec les consuls d'Algérie et du Maroc, les Chibanis se perdaient dans les couloirs du métro entre la gare de l'Est et Orly-Sud, c'était les premiers qui avaient besoin du rétablissement que d'ailleurs ces pays ont rétabli. Bon, il y a bien d'autres lignes qui peuvent être desservies, que pour l'instant nous avons une desserte absolument pas satisfaisante vers le sud, vers Lyon, vers Nice, et que l'État n'est pas prêt de changer les choses puisqu'il n'investit pas un seul euro dans la rénovation de la ligne ferroviaire, notamment entre Neuchâteau et Culmont-Chalindré, où on plafonne à 110 km/h. Et quand vous dites qu'on met 5 millions d'euros, que la région met 5 millions d'euros par an, c'est faux. Vous confondez avec le train d'équilibre du territoire entre Nancy et Lyon, que d'ailleurs la région ne devrait pas payer, puisque ça relève de la compétence de l'État, alors que l'aéroport régional appartient à la région, et ça relève de la compétence de la région. C'est 5 millions par an que la région verse à la SNCF pour ce train d'équilibre du territoire Nancy-Lyon qui relève strictement de l'État. Donc les 5 millions sont là. Nous, c'est 1,5 million à 2 millions d'euros de subventions, je parle pour la région, et 500 000 euros d'avances remboursables. Donc, c'est-à-dire que avec un an de subvention du TET Nancy-Lyon qu'on n'aurait pas payé, on fait au minimum deux ans et demi de fonctionnement de l'aéroport régional. Et c'est dans nos compétences. Par ailleurs, on parle d'infrastructures de transport. Il ne faut pas qu'on s'inscrive dans une vision court-termiste. Vous avez aujourd'hui, ne vous en déplaise, le trafic aérien ne cesse d'augmenter. Et on ne construira pas ou très difficilement de nouveaux aéroports. C'est-à-dire que même les aéroports qui aujourd'hui ont un potentiel, et bien en fait se rempliront dans les années qui viennent parce que d'autres aéroports sont à saturation, et notamment celui de Luxembourg, qui est totalement à saturation. Et même s'ils augmentent les infrastructures sur l'aéroport lui-même, le foncier autour ne permet pas davantage de stationnement et d'accueillir davantage. Ils sont attaqués même avec le tram entre la gare de Luxembourg et l'aéroport de Luxembourg. Et les Luxembourgeois sont les premiers à nous dire « Mais ne fermez surtout pas l'aéroport, votre aéroport régional, parce que même nous, nous en aurons besoin, nous serons à saturation chez nous, même si ce n'est pas immédiat. » Mais quand on investit dans de telles infrastructures, on investit pour des décennies. On ne raisonne pas à court terme pour dire « Tiens, ben, si dans l'un an, dans les deux ans ou dans les trois ans, ça, on n'équilibre pas, on ferme ». Ça se fait nulle part. D'ailleurs, j'ai fait modifier la position de la région sur ce sujet. C'était les débats que nous avions au Conseil régional la semaine dernière. Voilà, toutes les raisons que nous avons de maintenir cet aéroport régional. Et d'ailleurs, je pense, et je l'ai dit à la région et je le redis ici, que ça va être un moment de vérité, à la fois pour le sillon lorrain, sur sa capacité à défendre ou non, au moins à maintenir ou non, ou à développer ou non des infrastructures communes, et un moment de vérité pour la région Grand Est, pour savoir si elle est en mesure de desservir la totalité du territoire, ou si elle laisse se créer un immense désert aéroportuaire entre le bassin parisien et le Rhin. Voilà. Donc les vrais enjeux sont là. Alors effectivement, nous sommes directement intéressés. Donc quand on nous demande 50 000 euros pour cofinancer une étude pour avancer, je ne vois pas pourquoi nous la refuserions. Il est normal que nous sentions concernés par un aéroport qui se situe sur le territoire. Je regrette beaucoup que Nancy n'ait pas la même attitude. Je le dis sans aucune acrimonie. C'est regrettable, c'est un manque de solidarité lorraine. C'est un aéroport Metz-Nancy-Lorraine. Et si d'ailleurs Metz n'avait agi que pour son propre compte, nous n'aurions pas fait cet aéroport. Nous aurions simplement utilisé l'aéroport de Frescati, qui offrait toutes les capacités nécessaires. Et nous avons fait, à la demande des Nancéens, nous avons construit un aéroport à équidistance. Et nous n'avons pas conservé des capacités aéroportuaires à Frescati, comme il en existe à Tomblaine, notamment la vision d'affaires pour les évacuations sanitaires, parce que nous avons joué le jeu lorrain et qu'on a considéré que nous n'avions pas à maintenir les capacités aéroportuaires qui coûtaient, avec une contribution de la DGAC qui coûte, alors que nous avions un aéroport à vol d'oiseau 15 km plus bas. Voilà. Donc, raison pour laquelle il nous faut défendre cet aéroport, ne pas accepter un désert aéroportuaire. Nous en avons besoin. Nos habitants en ont besoin, à la fois sur le plan de l'attractivité, mais aussi, pour, j'en ai cité, un certain nombre de nos concitoyens qui sont parmi les plus modestes, mais qui n'ont pas à renoncer à pouvoir franchir une mer ou franchir un océan quand c'est leur aspiration personnelle. Et ça, le train ne le fera jamais si même on se décidait à faire les investissements nécessaires sur le sillon lorrain jusque au sillon du Rhône. Sur ce, je vous propose de passer au vote.
Il y a deux motions.
Il y a deux motions, effectivement.
Qui après modification des autorisations
de crédit. Nous votons sur la première motion.
La DM.
Les décisions modificatives. Qui vote contre? Qui s'abstient? Alors, qui vote contre, d'abord?
Les oppositions.
Alors, non, pas toutes. Non, c'est plus nuancé. C'est plus nuancé. C'est le groupe... UGE. Voilà. Qui s'abstient? Alors, il y a le groupe RN. Et comment il s'appelle votre groupe derrière, alors, s'il est... Pas que le PS, il y avait aussi d'autres trucs. Hein. Okay. Bon, voilà. Bon. Alors, le groupe socialiste et ses alliés, s'abstient comme le RN. Voilà. Et M. Grégoire. Le groupe Saint-Julien.
Oui. Voilà.
Oui. Au singulier. Voilà.
Voilà.
Le groupe singulier.
Il y a bien. Il y a la modification des
alors
autorisations.
Alors maintenant, sur les autorisations de programme et crédits de paiement, alors, qui vote contre? C'est le
pareil.
Même vote?
Oui.
Qui s'abstient?
Pareil.
C'est le même vote. Je vous remercie. Alors, point numéro 8. Fonds de concours et fonds verts, attribution d'une deuxième tranche, 2026, hein, Thierry Horry.
Oui, donc là, il y a eu la deuxième réunion de la commission d'attribution des fonds de concours pour l'année 2026 qui a examiné les dossiers. La commission donc s'est réunie le 15 juin 2026. Elle a procédé à cet examen. Elle propose de retenir 5 dossiers en portant l'affectation de fonds de concours pour un montant total de 82 389 euros, dont 80 477 euros au titre du fonds vert, conformément au tableau joint en annexe. La motion est en conséquence.
Bien. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour les communes. Donc on passe au point numéro. Donc passe au point 9. L'assujettissement des logements vacants à la taxe sur la vacance des locaux d'habitation. Thierry Horry.
Bien, la loi de finances pour 2026 remplace la taxe sur les logements vacants, la TLV, perçue par l'État et reversée à l'Agence nationale de l'habitat, et la taxe d'habitation sur les logements vacants, THLV, perçue par le bloc communal en introduisant la taxe sur les vacances des locaux d'habitation, TVLH, au 1er janvier 2027. Donc, il s'agit d'une substitution de taxes par ailleurs. L'idée est de mettre en place cette taxe et donc les deux autres n'existeront plus par ailleurs. Et donc le taux qui vous est proposé pour le 1er janvier 2027 est un taux de 20%. Et la motion est en conséquence. Vous avez bien sûr pour votre parfaite information le nombre des logements vacants depuis plus de deux ans sur les années 2021 à 2025 au niveau de l'euro métropole. La motion est en conséquence.
Alors, Monsieur Secondé, allez-y.
Oui, Monsieur le Président et chers collègues. Cette nouvelle taxe qui entrera en vigueur pour les impositions établies à compter du 1er janvier 2027 remplace donc la taxe sur les logements vacants, TLV, perçue par l'État et reversée à l'Agence nationale de l'habitat, ANA, et la taxe d'habitation sur les logements vacants, THLV, perçue, elle, par le bloc communal. Demain, donc, tout le produit sera affecté au bloc communal et cela représente un gain potentiel de plus, plusieurs centaines de milliers d'euros, simplement du fait du changement d'affectation, même si, au total, cela restera modeste au regard du budget de la métropole. Et de toute façon, à nos yeux, le rendement financier attendu doit être considéré comme secondaire par rapport à l'objectif principal, remettre des logements sur le marché. Selon l'INSEE, le territoire métropolitain compte environ 125 700 logements, dont près de 9% sont vacants, soit plus de 11 500 logements. La commune de Metz concentre à elle seule tout près de 8 000 logements vacants, ce sont des chiffres 2023, rien de plus frais, soit 11% du parc, et ce chiffre, notons-le, a presque doublé en 20 ans. Notons aussi que ça représente à Metz 70% de la vacance métropolitaine. À noter que Metz, enfin, représente un niveau de vacances supérieur à la moyenne nationale, autour de 8%. On est donc devant un phénomène structurel grave à un moment où les gens ont de plus en plus de mal à se loger. Alors les chiffres sont très importants et sont bien connus de celles et de ceux qui ont dénoncé avec succès l'imposture que constituaient les prémices d'un PLUI les ignorant. Il existe en effet une voie évidente pour répondre en grande partie aux besoins de logements, autre que celle d'artificialiser les terres agricoles, et c'est bien sûr celle de la remise sur le marché de logements vacants existants après ou pas réhabilitation. Alors d'où l'importance de ce rapport qui nous est présenté. La TVLH maintenant donc devant être un outil de mobilisation du parc vacant et non un objectif de rendement fiscal. Alors cette TVLH ne concernera toutefois qu'une partie de ces logements, hein, cette différence entre les chiffres, ce qui répond aux critères fiscaux de vacances durables, c'est-à-dire un sous-ensemble de la vacance durable avant prise en compte des exonérations prévues par la loi lorsqu'il y a des travaux, impossibilité de louer, des procédures successorales, etc. Dans notre métropole, la vacance est plus concentrée que dans plusieurs métropoles comparables. Elle est en effet fortement polarisée sur le parc ancien privé centre-ville de Metz, les quartiers anciens, Outre-Seille, Gare, et de manière plus macroscopique dans les quartiers centraux. Alors ce sont des secteurs clés, proche du cœur de Metz, de ses commerces, de la gare et des nœuds de transport, avec un patrimoine remarquable et une qualité de vie au rendez-vous. Mais la structure du parc y produit plus de turnover qu'ailleurs, avec des prix plus élevés que dans les quartiers adjacents et des logements situés souvent dans de grands immeubles anciens, moins adaptés à la demande et qui peuvent être jugés vétustes et énergivores. Résultat, il y a une forte concurrence de l'offre de logements neufs dans les quartiers périphériques, la couronne urbaine et le périurbain, un mouvement en fait qui s'oppose de fait à l'objectif de remobiliser la fraction du parc de logements actuellement vacants qui semble être affichée ici et que ne manquerait pas d'ailleurs d'accélérer un PLUI faisant la part belle à l'accaparement de terres agricoles et naturelles périphériques. On serait là en effet dans l'irrationalité la plus complète. Remettre un logement sur le marché passe par l'association de la taxe au repérage des logements, au contact avec les propriétaires, aux aides de l'ANA, à un suivi individualisé des situations. La réussite dépendra de la capacité de la métropole à combiner fiscalité, accompagnement des propriétaires et rénovation du parc ancien. Je vous propose, Monsieur le Président, chers collègues, de mettre en place un observatoire de la vacance fondé sur les données INSEE, l'OVAC et les remontées communales, afin de suivre en continu le nombre de logements vacants, les logements remis sur le marché, les recettes de TVLH, les exonérations, et tout cela avec des focus et des analyses fines pour les secteurs les plus concernés. Et je le redis pour conclure, la TVLH doit être envisagée comme un outil au service de la politique locale de l'habitat, contribuant à la remise sur le marché de logements vacants, à la revitalisation des quartiers anciens et à limiter au maximum l'étalement urbain. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Secondet. Monsieur Riffaut.
Monsieur le Président, chers collègues, le mal-logement est un fléau. La précarité augmente et avec elle des personnes sans abri. Le logement est la dépense contrainte qui pèse le plus sur les budgets des familles. Et avec des évolutions salariales trop faibles, les salariés peinent à se loger décemment. Face à cela, la vacance d'habitation apparaît comme une indécence. Accepter que l'immobilier devienne source de spéculation n'est plus concevable quand tant de personnes n'arrivent pas à trouver un logement et que le logement conventionné sont sous pression. Aussi, nous nous félicitons que vous saisissiez cette nouvel outil, la TVLH, et nous voterons favorablement à sa mise en place. Un taux de 20% est une bonne base fiscale qui rapportera à l'Eurométropole des ressources propres qu'il conviendra de flécher dans la lutte contre le mal-logement, dans le soutien à la rénovation thermique, dans le soutien aux bailleurs conventionnés. Néanmoins, nous vous appelons à aller plus loin. Il ne s'agit pas de matraquage fiscal, comme pourrait le penser une certaine opposition, mais d'un rééquilibrage de droits face à la tension sociale qu'engendre le mal-logement. Taper au portefeuille est certes une tactique facile, mais une tactique efficace. Aussi, nous vous incitons dans les prochaines années à aller, comme la loi vous y autorise, plus loin sur le taux de cette taxe. Communiquer sur l'évolution du taux pour inciter les propriétaires à remettre sur le marché un volume de logements plus que conséquent dans les meilleurs délais. Cette taxe est indispensable pour réguler les mauvais comportements des propriétaires investisseurs. Par égoïsme ou incapacité à rénover, c'est près de 2855 logements sur vos chiffres sur l'Eurométropole. Cela permettrait de loger environ 5300 personnes à court terme. Un logement vacant, c'est une famille qui quitte Metz faute de pouvoir accorder son lieu de vie à son projet familial. C'est un étudiant qui préfère rester chez ses parents plutôt que de vivre sur son lieu d'études. C'est un jeune actif messin qui ne peut pas se loger à proximité de son travail. Monsieur le Président, la brèche dans la vacance des logements est là. Vous avez notre soutien pour l'ouvrir. Vous l'aurez pour l'agrandir. Merci.
Merci. Il n'y avait pas d'autres demandes d'intervention. Je réponds, mais tu réponds.
Oui, je note avec satisfaction qu'il y a plusieurs élus d'opposition qui saluent la mise en place, ou en fait juridiquement, d'une nouvelle taxe, mais qui finalement existait auparavant techniquement. J'ai bien noté que ce n'est pas l'alpha et l'oméga pour combattre les habitations indignes, parce que c'est particulièrement difficile. Je suis un petit peu plus sceptique quand on fait le lien dans le cadre du PLUI et dire qu'il y a des logements vacants et qu'il faut d'abord flécher ces logements-là pour les familles ou les personnes qui voudraient se loger, parce que je ne sais pas. C'est facile quand il y a des chiffres de mettre des chiffres en face d'autres chiffres, mais quand on a des familles qui veulent s'installer, comment on les oblige? Parce que c'est finalement ça qui est demandé, c'est de les obliger à aller dans le centre-ville ou peut-être dans des quartiers excentrés de la ville, en tout cas, et alors que peut-être, il me semble que la majorité des Français, si j'en crois les sondages, souhaitent plutôt aller dans des habitations, des logements, des maisons avec jardin. Et donc, je ne sais pas comment vous obligez les personnes donc à aller plutôt dans un appartement alors qu'ils recherchent une maison. C'est tout ce que je pouvais dire, Monsieur le Président.
Bon, merci, Monsieur le Vice-président. D'abord, je note des uns et des autres le soutien à notre démarche. Cette taxe est un outil, c'est pas le seul, bien sûr, mais c'en est un. Exactement comme la taxe sur les cellules commerciales vacantes que nos prédécesseurs avaient toujours refusé de mettre en place à Metz et que nous avons mis en place à Metz, est également un outil, mais il n'est pas le seul, pour éviter la vacance. Vacance qui est préjudiciable à la collectivité. S'il n'y en avait pas, ce ne serait pas grave et on n'irait pas embêter. Ce l'est parce que nous avons des équipements publics, nous avons des nécessités de logement et effectivement les locaux vides sont préjudiciables au bon fonctionnement de la collectivité. C'est des pertes pour les services publics. Ça impose à aller aménager, équiper, assainir d'autres secteurs que ceux qui le sont déjà pour pouvoir eh bien loger ceux qui en ont besoin. C'est un levier que nous utilisons et que nous allons continuer à utiliser. Et nous continuerons à actionner le levier progressivement, mais certainement, je veux dire, Monsieur Riffaut, nous risquons de continuer effectivement à l'augmenter, de vous le proposer. Nous y allons progressivement, et ce n'est pas effectivement, et là je rejoins Monsieur Secondet, pour obtenir d'abord des recettes. Nous préférerions ne pas avoir de recettes. C'est vraiment une taxe que nous mettons en place en espérant ne plus l'apercevoir. Parce que la vacance aura été réduite. Il y a toujours une vacance, qui n'est pas concernée par la taxe, qui est une vacance frictionnelle, voilà, et qui est beaucoup plus importante que vous ne le dites, les opposants, parce que dans les chiffres de vacances que vous sortez, vous oubliez qu'on a à peu près une moitié de vacances frictionnelles, qui est parfois très longue. Quand on est sur des questions de succession, par exemple, c'est extrêmement long. Quand on est, et on le vit avec les bailleurs sociaux, sur des démolitions, reconstructions, où on crée la vacance d'immeubles avant de les démolir, et qui dure pendant des années. Et toute une partie de la vacance que vous avez invoquée, d'ailleurs, dans le débat sur le PLUI, résultait d'ailleurs de cela. Il dirait que le plus mauvais élèves en matière de vacances, c'était quand même l'office public d'HLM que nous avons trouvé et que nous avons transformé en EMH. Voilà. Un bailleur social que nous avons trouvé à la ramasse, mal géré, et qui connaissait un taux de 10% de vacances. C'est très rare pour des bailleurs sociaux. Et dont en 3 ans, nous avons, 3 à 4 ans, nous avons réduit de moitié la vacance commerciale, et nous employons à continuer à la réduire. Donc c'est bien donner des leçons aux autres, mais il faut balayer devant sa porte. Par ailleurs, on parle tous, vous l'avez évoqué les uns et les autres, et c'est vrai, c'est factuel, la très forte vacance en cœur de ville et notamment dans le secteur sauvegardé. Sauf que quand vous ne pouvez pas mettre votre logement aux normes thermiques requises pour pouvoir le louer, en respectant les prescriptions d'architectes des bâtiments de France, il y a un problème. L'État nous place devant ces injonctions contradictoires sur ce sujet comme sur plein d'autres. On ne peut pas louer, mais on ne peut pas atteindre les normes qui permettraient de louer. Et par ailleurs, il faut bien qu'on loge, mais on ne peut pas construire en étendant l'enveloppe urbaine. On fait comment? C'est comme ça qu'on se retrouve en crise du logement que vous niez, mais dans laquelle nous sommes. Et nous y sommes par pénurie de logements, en tout cas de logements accessibles. Donc, c'est les difficultés que nous avons à réduire. Alors, dans les outils que nous utilisons, vous évoquez les aides de l'ANA, vous avez raison, M. Secondet, on les mobilise au maximum. Et ça fait des années que nous avons contractualisé avant toutes les autres intercommunalités de Moselle avec l'ANA pour que l'ANA priorise ses crédits sur notre territoire. Bon, le problème, c'est que les crédits se réduisent. De la même façon, en 2020 ou en 2021, nous avons multiplié par 7 les crédits à l'ALEC pour pouvoir mobiliser le plus grand nombre de propriétaires pour bénéficier quoi, à la fois des crédits d'impôt, des financements, MaPrimeDabord et d'autres, et les conseiller utilement pour qu'ils ne soient pas victimes d'escrocs, pour rénover leur logement. Donc ces actions dans le parc privé, elles sont engagées. Et dans des secteurs encore plus prioritaires, je pense à Outre-Seille ou au cœur d'Ars-sur-Moselle, on a engagé l'OPH-RU. Donc nous utilisons tous les leviers possibles. Nous avons mis en place d'ailleurs également le dispositif de portage, quoi, d'acquisition de certains immeubles, même si on ne peut pas tous les acquérir, pour à la fois refaire des cellules commerciales à loyer abordable et pour refaire du logement dans les étages supérieurs là où il n'y en avait plus. Voilà, nous engageons tous ces leviers, mais le levier fiscal en est un. Voilà, c'est pourquoi nous allons continuer à actionner en attendant pas tout de lui, et en espérant même ne plus avoir aucune recette parce que nous aurons résorbé cette vacance. Elle dit tout de suite, mais ce n'est pas parce qu'on résorbe la vacance qu'on n'aura pas besoin de construire de nouveaux logements. Parce qu'avec le phénomène de décohabitation et par ailleurs avec l'attractivité de notre métropole, on ne peut que se satisfaire. Et bien, il faut que nous construisions encore, et si nous ne nous construisons pas, il se passe ce qui vous devriez déplorer, c'est qu'on va construire sa maison et bien de plus en plus loin de l'endroit où on travaille. Et on va dans le Saulnois habiter, pour quand on travaille sur Metz, voire même au Luxembourg, et avec un bilan carbone fortement détérioré, puisque en ayant une politique excessivement restrictive en matière de logement sur la ville-centre et sa première couronne, on pousse les gens à habiter de plus en plus loin en allongeant d'autant les trajets pendulaires en voiture individuelle. Sur ce, je vous propose de passer au vote. Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Et donc, nous passons au point numéro 10, choix du mode de gestion pour l'exploitation des parkings Pexan, Pontifroid et de la piscine métropolitaine et lancement de procédure. Monsieur Gilles Forfer. Je vais vous le dire, si on l'a prévu. Non, c'est pas prévu. Non. C'est que non, c'est la procédure. Non, manifestement. Non, c'est sûr, hein. Ouais.
Bien. Ça fonctionne, oui, ça.
Allez-y.
Monsieur le Président, chers collègues. Depuis le 1er janvier 2018, l'Eurométropole de Metz est compétente en matière de gestion des parcs de stationnement et exploite aujourd'hui 13 parkings selon différents modes de gestion. Afin d'harmoniser et d'optimiser cette gestion, l'Eurométropole et la ville de Metz ont créé en 2025 la SPL Metz Parking, une société publique locale regroupant des activités de stationnement au sein d'une structure unique détenue exclusivement par des acteurs publics. Dans ce contexte, et en lien avec la fin de la concession du parking Pexan, ainsi que l'ouverture des nouveaux parkings de Pontifroid et de la piscine métropolitaine, il est proposé de confier leur exploitation à la SPL Metz Parking. Ce choix présente plusieurs avantages. Une meilleure optimisation du taux de remplissage des parkings, une mutualisation des moyens avec les 7 autres parkings déjà gérés par la SPL, une amélioration de la qualité et de l'uniformité du service, une meilleure maîtrise des investissements grâce à leur amortissement dans le temps, ainsi qu'une plus grande souplesse de fonctionnement liée au statut de droit privé de la société. Par ailleurs, l'Eurométropole conservera un contrôle étroit sur le service grâce à sa présence dans la gouvernance de la SPL, notamment pour la définition des tarifs, des abonnements et le suivi de la qualité du service rendu. Enfin, la SPL Metz Parking reprendra l'exploitation du parking Pexan au 1er janvier 2027, ainsi que celle des parkings de Pontifroid, de la piscine métropolitaine, dès leur ouverture. Il est proposé de conclure un contrat estimé à environ 3 200 000 euros jusqu'au 31 décembre 2034, en cohérence avec les engagements existants et les besoins d'exploitation et d'investissement qui seront précisés dans l'avenant qui sera présenté au Conseil de septembre. Merci.
Bien, même si le service juridique m'assure qu'avec la législation, vous pouvez rester en interprétateur d'SPL, moi je préfère prendre aucun risque. Voilà, voilà. Et souvent j'ai eu, dans l'histoire, des opposants trop malveillants pour vouloir prendre le moins de risque. Donc je demande aux administrateurs de l'SPL de sortir, même si le juridique nous assure que l'on peut, qu'ils peuvent rester. Ouais. On n'aura pas de problème de quorum. Voilà, donc... Puisque le quorum baisse d'autant qu'on a d'élus qui sortent pour cette raison. Voilà. Alors, Monsieur Riffaut, puis Madame Le Duc. Et Madame Comte. Alors, Monsieur Riffaut.
Monsieur le Président, chers collègues, la constitution de la SPL est une bonne nouvelle pour les parkings de la métropole, peut-être pour ceux des territoires voisins, des hôpitaux du territoire et de la gare Lorraine TGV par la suite, pourquoi pas. Cet outil qui apporte une souplesse et une maîtrise des prix appliqués aux usagers sans marge de rendement financier démesurée. Toutefois, j'attire votre attention sur un point qui nous semble essentiel, sans doute philosophique dans la vision de ce que doit être le stationnement autour d'un équipement de service public. En effet, le choix d'offrir 2 heures de gratuité pour le parking de la future piscine métropolitaine ne nous semble pas répondre à l'usage d'un équipement public. J'ai fait rapidement le calcul tout à l'heure sur une famille qui viendrait à la piscine par ses temps caniculaires passer 4 heures sur les tarifs de l'hôtel et du parking Coalin. Ça coûterait à peu près 30 euros pour passer 4 heures. Donc à ce tarif-là, vous n'amenez pas vos enfants, même si c'est la canicule, tous les après-midi à la piscine. Donc je propose qu'il soit inscrit que les usagers des parkings d'équipements publics puissent bénéficier de la gratuité de ces stationnements. Car à ce jour, toutes les communes n'ont pas la possibilité d'accéder aisément en transport en commun à ces équipements. La voiture est donc leur seule possibilité. Je suis certain que cette proposition trouvera un écho favorable chez bon nombre d'élus des communes de la métropole. Je vous remercie.
Merci Monsieur Riffaut. Madame Le Duc.
Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Nous ne nous opposerons pas au choix que vous proposez de passer en mode de gestion privée, d'un mode de gestion privée au mode de gestion en société publique locale pour ces 3 parkings, même si pour notre part nous sommes pour une gestion en régie publique qui est un mode de gestion le plus direct, le plus transparent et intégralement à la main des élus et des citoyens et qui, pour de multiples raisons, notamment économiques mais surtout démocratiques, est le mode que nous aurions privilégié. Pas d'opposition de notre part donc et nous voterons pour, mais je souhaite comme mon collègue vient de le faire, poser la question ici de l'absolue nécessité de la gratuité du parking pour l'accès à la piscine métropolitaine. La piscine est une infrastructure extrêmement populaire et indispensable, pas uniquement en tant qu'infrastructure sportive, mais aussi, et nous l'avons expérimenté ces derniers jours, en tant que lieu, je pèse mes mots, de survie pour beaucoup de personnes, et notamment de familles en période caniculaire. J'en profite d'ailleurs pour saluer les agents des piscines et les maîtres nageurs qui ont vécu des jours compliqués, mais grâce à qui de nombreuses personnes ont pu se rafraîchir en toute sécurité. L'accès aux piscines doit donc être facilité, notamment pour les plus vulnérables et les plus précaires. C'est pourquoi nous défendons l'idée d'une gratuité des piscines en période de canicule. Et de ce fait, le parking ne saurait y être payant. Nous voulons nous en assurer ici. Est-il possible de prévoir une gratuité effective, totale, pour les usagers de la piscine et qui serait soumis à notre vote ? Merci.
Merci, Madame Comte.
Monsieur le Président, mes chers collègues, nous tenons tout d'abord à rappeler que la société Metz Parking est une réussite et que nous sommes favorables à la poursuite de son développement. L'extension de son périmètre d'intervention et la gestion de nouveaux parkings permettent un meilleur pilotage de notre politique de stationnement et offrent un service plus lisible et plus efficace aux usagers de la métropole. Toutefois, nous sommes très étonnés que cette délibération ne comporte aucune étude d'impact précise sur les conséquences financières de l'exploitation de ces nouveaux parkings pour la collectivité. Une question simple, pourtant, pourrait nous guider. Cette opération permettra-t-elle réellement de réduire les charges supportées par la métropole et d'améliorer l'efficience de la gestion publique? En l'absence d'éléments chiffrés, il nous est difficile de mesurer pleinement les bénéfices de cette extension. Or, depuis le début de ce mandat et durant notre campagne, nous plaidons régulièrement pour que nous introduisions davantage d'évaluation et de performance dans nos décisions publiques. Nous avons le devoir de nous appuyer sur des indicateurs, des études d'impact et des éléments objectifs afin de nous assurer que chaque décision prise sert au mieux l'intérêt général et préserve les finances de notre collectivité. Cette réserve étant exprimée, et parce que nous croyons au rôle utile de Metz Parking et à la pertinence de son développement, nous voterons néanmoins favorablement à cette délibération. Je vous remercie.
Merci Madame Comte. Alors je voudrais d'abord dire à Monsieur Riffaut, à Madame Le Duc, je voudrais rassurer, il est effectivement prévu la gratuité pour les usagers de la piscine. Voilà. Ils payeront un ticket d'entrée à la piscine, qui sera d'ailleurs différencié selon qu'ils habitent l'Eurométropole ou à l'extérieur. Voilà, puisque c'est la métropole qui payera le déficit de la piscine. On ne connaît pas de piscine excédentaire. Comme sur la ville de Metz, c'est la ville de Metz qui paye les piscines et donc les personnes extérieures de la ville de Metz payent davantage. Et c'est le cas dans à peu près toutes les piscines que je connais. Mais le parking sera gratuit. Les gens ne payeront pas à la fois le ticket et le ticket de la piscine et le parking. Donc c'est clair et net. Donc je vous rassure pleinement là-dessus. Quant à la gratuité de la piscine en période de canicule, je vais vous dire, mais ce serait juste impossible, très injuste, parce que vous avez, on ne peut pas, on peut accueillir une quantité déterminée de personnes. Au-delà, on les met en danger. Voilà, exactement comme on met en danger les personnes qu'on laisse nager dans les espaces naturels sans surveillance. Certains l'appellent à le faire, c'est complètement irresponsable. Je rappelle qu'il y a eu une mort par noyade au canal Saint-Martin à Paris et qu'on a eu plus de morts pendant la canicule mort par noyade que mort par hyperthermie. Voilà. Donc, nous avons bien conscience qu'il faut augmenter les capacités en période de canicule, mais aussi le reste du temps. Quand la moitié de nos jeunes entrent au collège sans savoir nager, on en a souvent parlé, c'est une nécessité absolue que de favoriser l'apprentissage de la natation. Et ça passe par la création de piscines. Voilà. Nous allons continuer à le faire dans ces conditions. Après, on a un vrai sujet qui est le recrutement des maîtres nageurs. Même pendant la canicule, Metz-Plage aurait été ouvert bien plus tôt si on avait eu les maîtres nageurs. Et c'est un autre sujet, mais on va être conventionné, même proposer aux jeunes médecins, aux jeunes habitants de la métropole, de leur payer même le BSNA, à condition qu'ils s'engagent pendant 3 ans, par exemple, à surveiller Metz-Plage ou d'autres lieux pendant... notamment pendant l'été et l'été en le démarrant par les week-ends déjà du mois de juin ou en prolongeant en septembre. Donc soyez rassurés, le stationnement sur la piscine sera gratuit pour les usagers de la piscine. Mais pour autant, nous ne ferons pas la piscine gratuite. Est-ce que cela réduira les charges pour la métropole? D'ailleurs, ça ne devrait normalement pas les augmenter, puisque nous n'avons pas de frais à faire remonter au siège, d'un opérateur national. Donc il n'y a pas de raison que ça coûte plus cher, ça devrait coûter moins cher, mais vous avez raison. Il faut que nous puissions l'évaluer, que nous puissions avoir les indicateurs et bien mesurer effectivement les coûts et l'efficience de notre dispositif. Ce n'est pas parce qu'il est contrôlé localement qu'il doit revenir plus cher. C'est ce pourquoi, Madame Leduc, je suis très réservé sur la régie, parce que la régie, avec le mode de fonctionnement des administrations publiques, revient très souvent beaucoup plus cher en fonctionnement et beaucoup plus lourd qu'en société publique locale. Voilà, donc autant sur des missions... très régalienne ou des missions vraiment de service public direct, oui, je pense que le statut de la fonction publique et la séparation même ordonnateur comptable est justifiée. Pour ce type de service, je ne pense pas. Et ça nous coûterait plus cher de le faire en régie directe. En revanche, il vaut bien qu'on vérifie que la SPL ne coûte pas plus cher et même puisse coûter moins cher. Donc il faut évidemment que nous ayons les indicateurs et que nous puissions évaluer. Sur ce, je vous propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et nous passons au point numéro 11, le programme de renaturation et de lutte contre les inondations du ruisseau de Saulny et de ses affluents nécessitant une déclaration d'utilité publique en portant la mise en compatibilité des documents d'urbanisme. Et la parole est à Monsieur Roger Pelletier. Et les administrateurs de la SPL Metz Parking peuvent rentrer.
Monsieur le Président, chers collègues, L'Eurométropole de Metz mène un programme de renaturation et de prévention des inondations sur le ruisseau de Saulnie-Voipy, qui traverse Saulnie, Voipy et Metz avant de rejoindre la Moselle. Ce projet, relevant de sa compétence GMAPI, vise à protéger les habitations du bassin versant régulièrement touchées par des crues exceptionnelles, comme en juin 2018. Le programme, estimé à 3,6 millions d'euros, se déroule en trois phases. Premièrement, travaux de renaturation et d'entretien du ruisseau de Saulnie à l'échelle de ses bassins versants. Deuxièmement, l'aménagement d'une zone de rétention dynamique des crues située en amont immédiat de Voipy. Troisièmement, une étude pour compléter la protection des biens et des personnes dans la traversée de Voipy. La collectivité prépare le lancement de la phase 2 du projet. Cette étape implique l'acquisition de terrains privés dont une grande partie a déjà été obtenue par voie de négociation à l'amiable. Cependant, des blocages persistent, justifiant l'engagement de la collectivité dans la mise en place d'une procédure de déclaration d'utilité publique. La délibération vise à valider le projet, à lancer la DUP, à adapter les PLU et déposer une autorisation environnementale. Le bureau, la commission ressources, la commission services urbains et transition écologique ont été consultés. La motion est en conséquence.
Je vous remercie, Monsieur Pelletier. Quelqu'un demande la parole? Qui vote contre? Ah, pardon, Madame Leduc.
Merci, Monsieur le Président. Sur ce programme de renaturation et de lutte contre les inondations du ruisseau de Saulnie qui vise à protéger les habitantes et habitants, notamment de Voipy, je voudrais tout de même poser quelques remarques. Nous en sommes là à cause d'une artificialisation à outrance de nos sols, notamment en amont des zones qui ont subi des inondations majeures en juin 2018 à Saulnie, Voipy et à Metz, qui motive ce projet. Tout cela à cause d'une vision très discontinue et volontairement tronquée des impacts de la bétonisation sur l'ensemble des territoires, notamment en aval des aménagements. On a là un cercle vicieux. D'abord, on détruit la nature pour pouvoir construire toujours plus, puis on détruit à nouveau la nature pour protéger les habitations impactées par les précédentes destructions. À la fin, ce sont les populations qui payent d'un point de vue environnemental et financier les conséquences de choix politiques en faveur des promoteurs immobiliers. C'est encore une fois une alerte sur le fait que l'intérêt général doit primer de manière absolue en matière environnementale. Un avertissement, encore une fois, qui malheureusement n'est jusque-là pas entendu quand on connaît par exemple les projets du PLUI annulés de construction sur le secteur Chiloux 2, qui impactent encore une fois l'amont de ces secteurs. Aucune leçon n'est tirée puisque les mêmes erreurs sont promises. On espère que vous l'entendez cette fois en vue de la prochaine mouture du PLUI, heureusement invalidée, notamment sur des arguments environnementaux. Sur le projet en lui-même, la description sur les impacts environnementaux est très sommaire, mais des impacts négatifs sont mentionnés sur des zones humides, sur des zones d'espaces protégés et sur certaines espèces comme l'écrevisse à pattes blanches. On manque d'informations sur ces impacts et notamment sur les surfaces concernées. Nous souhaiterions avoir rapidement l'avis de la MRAE et de la DDT pour des avis éclairés et objectifs. Une question se pose d'ailleurs, est-ce que d'autres alternatives ont été étudiées et si oui, lesquelles? Évidemment, nous n'allons pas nous opposer à ce stade à un programme de renaturation et de lutte contre les inondations pour la protection des habitantes et habitants de la métropole qui sont concernés. Mais redisons-le, tout cela est un aveu d'échec et de mauvaises décisions antérieures auxquelles il faudra mettre un terme, notamment dans le prochain PLUI. Cela semble mal parti, mais les associations et les collectifs veillent, ainsi que les populations locales, fort heureusement, et nous aussi. Merci.
Madame Leduc, s'il n'y avait pas d'habitants, effectivement, ce serait bien mieux, il y aurait pas, on n'artificialiserait pas. C'est absolument surréaliste. Non, on ne construit pas pour faire plaisir aux promoteurs. D'ailleurs, mes prédécesseurs ont autant construit que moi. On construit d'abord pour loger des gens. Et moi, je suis très fier à Voipy, en une décennie, d'avoir permis à 500 familles de Voipy de sortir de leurs logements sociaux et devenir propriétaires par les dispositifs d'accession sociale à la propriété qui n'ont pas fait les choux gras de promoteurs parce qu'ils ont travaillé à marge très serrée et ont vendu infiniment moins cher qu'à Metz pendant cette même période, pour permettre à des personnes en logement social de devenir propriétaires pour une mensualité résiduelle égale au loyer modéré qu'ils versaient. Bon. Donc, le droit au logement, vous l'invoquez en permanence, mais on ne peut pas satisfaire le droit au logement et le droit à un parcours résidentiel sans logement. Effectivement, quand on urbanise, il faut effectivement prévoir toutes les conséquences et très en amont, et il faut faire un certain nombre d'aménagements qui, par le passé, ont parfois manqué, mais n'ont pas manqué qu'à Saulnie ou que sur certains lotissements, parfois manqué aussi sur les zones à urbaniser en priorité. Donc vous êtes dans un paradoxe complet. Si vous ne voulez pas que les gens puissent se déplacer, vous ne voulez pas que les gens puissent habiter, alors qu'il s'agit là de satisfaire des droits fondamentaux en les rendant compatibles avec les impératifs environnementaux. Mais ce n'est pas tout l'un et tout l'autre. On ne construit plus comme il y a 20 ans, on n'aménage plus comme il y a 20 ans, mais pour autant, il ne faut pas cesser d'aménager ou de construire quand nous avons des habitants à loger. Voilà. Bien, sur ce, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. Donc, le point 12 est la communication des délibérations prises par le bureau. Monsieur Roch et Monsieur Secondé. Et Monsieur Mertz, voilà.
Ne vous inquiétez pas, nous serons brefs. Monsieur le Président, plusieurs délibérations du bureau concernent la CMEMH et des acquisitions. Vous n'êtes pas sans connaître les difficultés des opérateurs HLM, dont EMH en ce moment, surtout du fait de baisse d'aide de l'État. Je serai bref et très direct. Le président d'EMH va-t-il s'octroyer une indemnité, comme l'a fait la présidente du CERM, sans aucune délibération dans ce Conseil ? Par transparence, j'aimerais avoir cette réponse.
Monsieur Secondé.
Oui, Monsieur le Président et chers collègues, moi je souhaite intervenir à propos de la délibération du bureau numéro 31. Le bureau, lors donc de sa réunion du 22 juin, a décidé d'approuver l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU du secteur dit de la Croix de Lory sur la commune de Lory-les-Metz. Pourtant, l'avis rendu par la mission régionale Grand Est de l'agence environnementale, daté du 9 janvier de cette année, sur la modification du plan local d'urbanisme initié par la commune de Lory à l'EMS en 2025, incluait de nombreuses remarques et questions qui conduisent à s'interroger sur votre choix de privilégier l'urbanisation de cette zone. Parmi celles-ci, parmi ces remarques et questions, l'absence de démonstration de besoin de logement, justement à l'appui de l'évolution de la zone concernée. En effet, il est constaté à ce sujet que la population de Lory-les-Metz est en contraction, moins 40 habitants entre 2016 et 2022, selon l'INSEE. Il est souligné par ailleurs que la consommation foncière et le nombre de logements à produire sont supérieurs à ceux prévus au SCOTAM. Il est précisé de plus que le lotissement en cours de construction, dit le hameau du Chêne, n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre de logements. Donc, si on s'assoit sur les règles avancées par le SCOTAM, pourquoi se donner la peine d'en édicter ? Dernière critique de la MRAE que je citerai, la zone est située à l'écart du village, à côté d'une route métropolitaine avec ses nuisances sonores et loin des services publics et de l'école. Nous sommes convaincus qu'une large partie de la population est réticente à ce nouveau projet de modification du PLU, population qui n'a pas été invitée à s'exprimer sur celle-ci lors de la dernière campagne municipale. Pouvez-vous, monsieur le président, répondre à ces remarques et questions de la MRAE et nous dire pourquoi ? Et cela, en fait, afin d'être en conformité avec la loi climat et résilience de 2021, il n'a pas été jugé plus opportun de questionner la pertinence de cet aménagement dans la discussion ouverte depuis décembre 2025 sur le nouveau plan local d'urbanisme intercommunal pour la métropole de Metz. Pourquoi, en effet, une telle urgence à modifier ce PLU ? Et je vous remercie.
Monsieur Mertz.
Monsieur le Président, puisque nous dirigeons vers la fin de nos travaux, vous me permettrez m'exprimer librement avec votre autorisation.
On a encore une question, une motion.
C'est-à-dire, non. C'est-à-dire, dans l'improvisation, pour vous dire que j'en vive justement votre liberté de réponse, mais c'est normal, hein, vous êtes le président et c'est la même chose au conseil municipal. Je parle de votre liberté de répondre aux questionnements, aux interrogations, aux interventions que nous avons, nous, pauvres conseillers métropolitains, qui plus est d'opposition, que nous avons longuement et laborieusement préparées. Et puis vous, ensuite, maîtrisant les sujets, comme c'est bien normal et comme nous le constatons tous, vous nous répondez. Et donc, je voudrais rebondir sur la motion concernant la 31, puisqu'il en est question dans ce point numéro 12. Et vous m'avez indiqué tout à l'heure que, et j'accepte parfaitement votre réponse, hein, que si cette motion n'était pas passée en assemblée, mais simplement en bureau, c'est parce que vous n'en aviez pas eu le temps. Dont acte. Mais je relève donc que vous admettez la pertinence de mon observation, à savoir que une motion aussi importante que celle-là, qui porte sur un sujet qui engagera les finances publiques et surtout qui pose des questions de principe, de fond, notamment sur les choix environnementaux, écologiques, de transport, etc., cela mérite d'être posé en assemblée. Et donc, en creux, implicitement, vous reconnaissez qu'il faut bien poser des règles et que le but du pacte métropolitain, enfin du pacte principe de fonctionnement, cherchez le mot, du principe de fonctionnement que devons nous donner, c'est bien de poser des règles. Or, vous nous avez dit, je m'amuse un peu, monsieur le Président, qu'il y a trop de règles et que parfois les règles étouffent. C'est un juriste qui ne vous démentira pas, c'est vrai, et les règles peuvent étouffer. Et que parfois même, elles sont cause d'insécurité juridique, puisque les règles ont parfois l'inconvénient de se contredire ou en tous les cas de relever d'interprétations différentes selon qu'on est devant un juge ou un autre juge, si bien qu'à la fin, on a du mal à s'y retrouver. Ça n'est pas faux. Mais à l'inverse, permettez-moi de vous faire remarquer, monsieur le Président, que le contraire de la règle, c'est l'arbitraire. Et que si, dans un état de droit, nous nous donnons des règles, c'est bien précisément pour éviter l'arbitraire. Et donc, c'est une ligne de crête, vous l'avez compris. D'un côté, il faut fixer des règles, de l'autre, il ne faut pas que ces règles deviennent étouffantes ou qu'elles deviennent illisibles ou incompréhensibles. Et donc, ce que je vous propose, c'est que nous fixions quand même quelques règles dans ce pacte, de façon à ce que nous puissions fonctionner, et notamment s'agissant des motions, lorsqu'elles sont d'importance, lorsqu'elles portent sur des questions essentielles de fond, eh bien que nous décidions que dorénavant, sauf exception, car je peux admettre qu'il peut y avoir une exception d'urgence, encore qu'il n'était pas impossible, dès le mois précédent, nous sommes réunis, je crois, à la fin du mois de mai, de venir avec cette question-là, puisque c'est quand même une question récurrente. Je me souviens avoir participé de mémoire à la première commission du débat sur l'A31. À l'époque, on disait l'A32, on ne disait pas l'A31 bis, on disait l'A32, au mois, je crois que c'était au mois de juin 1999. C'est vous dire que ça date pas d'hier. Et donc, si nous devons en débattre, enfin, nous aurions déjà pu en débattre, et il sera toujours temps de le faire. Voilà, merci, monsieur le Président.
Bien, merci, monsieur Merz. Alors, d'abord, monsieur Roch. Je veux dire, vous adorez aborder les sujets par le petit bout de la lorgnette et souvent d'ailleurs répandre de fausses rumeurs avec énormément de malveillance. Quand la gauche était en responsabilité à Metz et avant que nous ne changions les statuts de notre bailleur social, eh bien, les membres du conseil d'administration et donc bien sûr aussi le président percevaient quoi, c'était pas des jetons de présence mais une forme de jetons de présence. Voilà, c'était le cas avant. Depuis que nous avons transformé l'ancien office public en SEM, il n'y a plus aucune rémunération des administrateurs. La question a été reposée en début de mandat par les administrateurs, par certains élus qui passent un temps fou, pas seulement au conseil d'administration, mais dans les autres commissions d'adjudication, les caléoles qui font le lien avec les locataires, qui font plein de choses, et ce n'était pas complètement injustifié, et aussi par les administrateurs représentant des locataires. Le président de la SMEMH a tranché lui-même la question en disant qu'il ne souhaitait pas qu'il y ait la moindre rémunération des membres du conseil d'administration, a fortiori du président de la SMEMH. Alors je ne sais pas où vous allez chercher, en tout cas dans les caniveaux, ce type de rumeur, il n'en a jamais été question. Deuxièmement, s'agissant du CERN, On en a déjà parlé en conseil municipal où vous avez abordé le sujet qui n'avait pas lieu d'être abordé en conseil municipal, mais effectivement, quand on essaie de jeter le discrédit sur des personnes, on le fait partout. Alors effectivement, ici, c'est la bonne séance. Le président du SCOTAM a toujours été indemnisé. Le président de Moselle-Aval est indemnisé. Quand on prend une présidence comme celle du CERM, qui assure l'alimentation en eau et la desserte en eau de 400 000 personnes, qui est, je rappelle, pour les syndicats mixtes, qu'ils sont des établissements publics en eux-mêmes. Ce n'est pas une simple délégation en présentation. On assume la responsabilité comme d'un mandataire social de l'organisme qu'on prend, avec une responsabilité même juridique, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des administrés, des usagers. C'est-à-dire, on dirige une structure, on dirige des employés, préside, je veux dire, des réunions. Les indemnités sont tellement légitimes qu'elles sont prévues par la loi. Et d'ailleurs, là encore, je ne manque pas d'observer, Monsieur Roch, que quand les collectivités sont gérées par la gauche, comme aussi d'ailleurs par le RN, mais qui n'en a pas fait le reproche ce coup-ci, bien les indemnités sont versées sans aucune discussion. Et dans mon assez longue carrière politique, j'ai pu observer que dans les syndicats mixtes ou les syndicats intercommunaux, voir quel comportement de chacun, c'est plus des élus de gauche qui avaient une propension à aller chercher systématiquement les indemnités que la loi pouvait, et qui, dans le cas de certains organismes, sont moins justifiés que d'autres, parce que il y en a où il y a moins de boulot. Si je prends le syndicat mixte qu'on a créé pour les étangs de Saint-Rémy, c'est une charge de travail, mais quand même bien moindre que celle du CERM ou du SCOTAM ou de Moselle-Aval. Ces indemnités sont parfaitement légitimes, mais vous cherchez à le discréter et vous faites vraiment là du populisme de bas étage. Vous savez que vous flattez les bas instincts au lieu de faire de la pédagogie. Et ça, Monsieur Roch, je vous le reproche, parce que vous tirez vraiment le système par le bas. Et si vous en prenez essentiellement à Madame Burgi, c'est parce que vous savez qu'elle est une écologiste beaucoup plus crédible que vous, d'ailleurs, et c'est pour ça qu'elle suscite en permanence votre animosité. Monsieur Merz, vous êtes un homme trop nuancé pour caricaturer ma position. C'est bien le contraire de la règle et l'arbitraire, et je ne défends pas l'absence de règles. Je suis très soucieux sur le respect de la règle. Je dis simplement que nous avons aujourd'hui une réglementation extrêmement tatillonne, qui bride complètement, qui essaie d'ailleurs de décider, de prédéterminer la décision de chaque élu, de chaque responsable dans des situations données, sans d'ailleurs tenir véritablement compte du contexte, et en plus, nous sommes toujours soumis à ce sujet des injonctions contradictoires. Donc dire qu'on ne va pas rajouter de la règle à la règle, donc ça me semble une position parfaitement sage et équilibrée. On pourra avoir le débat sur l'autoroute A31 bis, c'est du on l'a déjà eu dans cette assemblée. Je me souviens simplement, vous évoquez nos vieux débats. Moi, je pense que les Lorrains ont manqué une chance historique avec la 32 et que j'ai regretté une alliance de circonstances entre un sénateur passé très à l'extrême droite à l'époque et la gauche dans les années 2000, alliance de circonstances qui nous a tué le projet d'A32. Et si nous avions l'A32 aujourd'hui, on n'aurait pas ces débats sur l'A31 bis, qui est un pal palliatif à l'A32, qui sera nécessairement à péage, et on n'a pas en Europe de concentration de population d'une telle densité que l'axe Nancy et surtout Metz-Thionville-Luxembourg, surtout avec de tels flux pendulaires entre Metz et Luxembourg, fonctionnant avec une seule autoroute. Regardez la carte de l'Europe. Ça n'existe pas. Et si je défends Le ferroviaire, d'abord, on va parvenir. On sait que c'est ceux qui poussent le plus à la réalisation d'objectifs ferroviaires. Le ferroviaire desservira au mieux, si on atteignait les objectifs, j'irais au mieux 15 à 20 % du flux en fait qui dirige vers Luxembourg. Donc on a besoin de la 31 bis, et je ne souhaite pas que des guerres picrocolines, des intérêts très locaux qui naissent ici et là, et je vois certains députés qui reprennent le combat d'anciens sénateurs prêts sur un intérêt très local à compromettre ce projet d'intérêt général, le train ne repassera pas une troisième fois. Voilà, pas une troisième fois. Donc je souhaite qu'on ne le loupe pas, et effectivement, la clôture de l'enquête publique étant au 29, on a dit le bureau du 27 pour adopter cette motion. Elle aurait peut-être ses débats ici, aurait pas nécessairement une unanimité, mais je n'en doute pas qu'on aurait eu une extrêmement forte majorité, puisqu'on on l'a déjà eu sur cette thématique, et je suis prêt à reposer le débat sur la table quand vous voulez, mais vous avez raison. Ce sont des grands débats qui méritent des discussions en assemblée plénière. Quant à M. Secondet, je vais laisser M. Gleiser lui répondre.
Merci, Président. Je vais essayer d'être pas trop long, mais suffisamment exhaustif, sachant que j'ai déjà apporté les réponses à M. Secondet en commission, mais vu que la question est reposée aujourd'hui, il n'y a pas de raison de ne pas revenir dessus. Déjà, pour vous dire que la modification que nous faisons est une modification qui est ancienne, hein, déjà, parce qu'elle avait déjà été présentée sous le mandat précédent, d'où l'avis de la MRAE dont vous utilisez effectivement certaines de ses conclusions, en tout cas préconisations de la MRAE vis-à-vis de la modification simplifiée qui était prévue initialement, modification donc qui a été réintroduite suite à la loi de simplification, de manière à pouvoir reposer le débat dans le cadre législatif et dans le cadre du droit de l'urbanisme qui nous occupe aujourd'hui suite à cette loi de modification. Sur les différents points, nombre de logements, on est dans le PADD de la commune de Lory, hein, qui était prévu initialement, et cette modification vient d'ailleurs corriger ce qu'on avait engagé initialement, que ne nous permettait pas la modification simplifiée, c'est-à-dire de déclasser quasiment la moitié aujourd'hui de ce qui existe à Lory en zone constructible pour les remettre en zone naturelle. Donc on améliore d'un point de vue du bilan écologique l'effet de notre PLU précédent en le modifiant, en réduisant du coup nos zones à urbaniser de manière très importante. Ensuite, sur la question de la localisation, à côté de la Croix de Lory, et je remercie encore le président d'avoir réalisé le giratoire à la Croix de Lory, qui était notre entrée de village et qui est notre entrée de village, sur laquelle on a trois côtés urbanisés, donc on urbanisera le quatrième avec ce projet de la Croix de Lory. Ce projet a pour vocation du logement, mais également des services, et notamment l'absence de médecins depuis maintenant 4 ans sur la commune de Lory. Et donc on va pouvoir, grâce à ce projet, réaliser une maison médicale qui est largement attendue par les Loriots la fermeture du dernier cabinet médical de Lory il y a 4 ans de ça, et l'impossibilité de reprendre les locaux du fait que le médecin qu'on avait à Lory était un médecin qui était un médecin dans sa maison familiale, maison qu'il a bien évidemment gardée. Sur ces points-là, ensuite, pourquoi l'urgence? Non, il n'y a pas d'urgence. Ce débat est dans la commune de Lory-les-Metz depuis 2020. Il faisait déjà partie des débats des élections municipales de 2020. Il a refait partie des débats de l'élection de 2026. Je ne pense pas que la liste écologique et LFIS que nous avions en face ait oublié de mettre ça sur le tapis pendant les élections. Nous avons toujours défendu la même position et nous continuerons à défendre la même position. Et les résultats des dernières élections, avec 80% pour nos positions, ne fait que conforter notre volonté de faire et de continuer à faire dans l'intérêt des habitants de Lory-les-Metz et ceux de la métropole, bien évidemment, parce qu'on se retrouve là dans un quartier qui va apporter des services, qui est connecté à la mobilité, qui est connecté au village et qui nous permettra de continuer à maintenir nos services publics sur notre village.
Voilà, merci Monsieur Gleiser d'avoir rappelé que cette question avait été tranchée démocratiquement. Mais effectivement, c'est comme pour la gare de Vandières, certains conteste toujours ce qui a été tranché démocratiquement et donne ensuite des leçons de démocratie. Voilà. Quant à M. Roch, j'attends toujours que vous renonciez à vos indemnités de conseiller métropolitain avant de faire la leçon aux autres. Voilà. Ensuite, il y avait la communication des décisions de l'exécutif. Ça a été fait. Vous les avez. Maintenant, nous passons à la motion que je vous propose sur le développement des dessertes ferroviaires transfrontalières internationales de Eurométropole de Metz. Donc, avec plus de 275 000 travailleurs frontaliers, la grande région, composée de la Lorraine, des Länder de Sarre et de Rhénanie-Palatinat, ainsi que de la Wallonie, concentre les flux transfrontaliers les plus importants de l'Union européenne. Cette intégration avancée du marché de l'emploi sur ce territoire en fait un modèle de coopération européenne dont l'Eurométropole de Metz est un acteur central. Située à la croisée des Eurocorridors Atlantique et Mer du Nord-Rhin-Méditerranée du réseau transeuropéen de transport, notre territoire incarne l'histoire de la construction européenne symbolisée par le centre européen Robert Schuman à Sichazelle. Membre actif du Quatropole, Metz s'engage régulièrement dans des projets transfrontaliers ambitieux reflétant son ancrage dans une dynamique européenne concrète. En 2020, la France comptait 454 000 travailleurs frontaliers, dont 94 000 exerçaient une activité au Grand-Duché du Luxembourg. C'est en 2020. Aujourd'hui, c'est 120 000. Parmi eux, 10 700 résidents dans l'Eurométropole de Metz, soit près de 10% des actifs du territoire. Ces travailleurs, majoritairement employés au Luxembourg et dans une moindre mesure en Allemagne, font face à des infrastructures de transport saturées, inchangées depuis la mise en œuvre de la LGV Est-Européenne en 2006. Côté routier, les acteurs du Nord-Lorrain ont soutenu le projet A31bis dont l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique pour la section nord du projet est clôturée depuis le 27 juin 2026. Pour promouvoir un projet conciliant les enjeux de mobilité avec la protection de l'environnement et la qualité de vie des riverains. Côté ferroviaire, malgré le protocole franco-luxembourgeois de 2018 prévoyant un développement phasé de la ligne Metz-Luxembourg, les premières mesures initialement attendues entre 2022 et 2024 accusent un retard de plus de 2 ans. La mise en service des rames TER à 2 niveaux et Normande 5 caisses, équipées du système de sécurité ERTMS, prévu pour fin 2026, marquera une première étape vers la désaturation de l'offre. Cependant, cette avancée ne saurait suffire. La seconde phase du protocole d'accord luxembourgeois, porté sur la période qui devait être achevée en 2028-2030, doit impérativement être planifiée et sécurisée sur les plans techniques et financiers. Pour cela, une visibilité financière garantie par l'État est indispensable dans le cadre des futures contractualisations avec la région Grand Est et le Grand-Duché du Luxembourg. Cette condition est essentielle à la mise en œuvre des projets de service express régional métropolitain Lorraine-Luxembourg. Par ailleurs, l'Eurométropole de Metz suit avec attention les projets portés par la région Grand Est, le Land de Sarre et le Land de Rhénanie-Palatinat pour développer les dessertes ferroviaires directes Metz-Sarrebruck et Metz-Trèves. Les matériels Régiolis TFA sont désormais homologués pour circuler en Allemagne, mais leur déploiement reste à ce jour limité à l'axe Strasbourg-Offenburg en raison de délais d'homologation de ces matériels ligne par ligne. Leur généralisation sur les liaisons Metz-Trèves et Metz-Forbach-Sarrebruck permettrait d'éviter l'usage de matériel thermique sur les infrastructures électrifiées et d'optimiser les temps de parcours en supprimant les correspondances pénalisantes à Forbach. L'optimisation de ces dessertes pourrait également permettre une desserte systématique de la gare de Peltre, conformément au schéma d'ensemble du CERM Lorraine-Luxembourg adopté par le Conseil métropolitain en décembre 2025. La mise en service d'un TGV Paris-Berlin en décembre 2024 a révélé des choix contestables. Malgré les avancées techniques mises en avant par la SNCF et la DB pour un passage par Forbach-Sarrebruck, le gouvernement a privilégié un détournement par Strasbourg. Pire, alors que le train de nuit Paris-Berlin emprunte désormais un itinéraire via Bruxelles et que l'État a financé une ligne aérienne sous obligation de service public entre Strasbourg et Berlin jusqu'en avril 2025, l'Eurométropole risque d'être écartée d'une seconde liaison TGV Paris-Berlin. Cette situation est d'autant plus incompréhensible que notre territoire, de par son histoire, sa géographie, ses pratiques quotidiennes, garde naturellement les valeurs de coopération franco-allemande européenne. Il est inadmissible que les décisions nationales ignorent ces réalités locales. En conséquence, les élus de l'Eurométropole de Metz demandent, pour les dessertes ferroviaires Metz-Luxembourg, à la région Grand Est, accélérer le déploiement des matériels capacitaires sur l'axe Metz-Luxembourg afin d'atteindre rapidement les objectifs de la première phase du protocole franco-luxembourgeois. À SNCF Réseau, produire un calendrier consolidé, fiabiliser les travaux nécessaires à la seconde phase du protocole 28000-2030. Au gouvernement, garantir un cadre financier stable au-delà de 2027 pour la réalisation des travaux d'infrastructures ferroviaires en coordination avec la région Grand Est et le Grand-Duché du Luxembourg. Pour les dessertes ferroviaires Metz-Trèves et Metz-Sarrebruck, à SNCF Réseau, DB Infrago et aux autorités de sécurité ferroviaire française et allemande, accélérer les procédures d'homologation des matériels Régiolis TFA sur les lignes Metz-Trèves et Metz-Sarrebruck, à la région Grand Est, aux Landes de Sarre et aux Landes de Rhénanie-Palatinat, affecter rapidement des matériels Régiolis TFA sur ces deux lignes, conclure les procédures de consultation publique pour leur exploitation afin d'augmenter les fréquences de desserte. Pour le TGV Paris-Berlin, la SNCF Voyageurs et la Deutsche Bahn examiner le potentiel d'un second aller-retour Paris-Berlin via Sarrebruck, au gouvernement de respecter les analyses commerciales des exploitants ferroviaires pour une seconde liaison TGV, de se concentrer sur ses responsabilités, notamment la mise en place d'un train d'équilibre du territoire pour relier le Nord-Lorrain au sud de la France, sans faire appel aux contributions financières des collectivités locales. On pourrait rajouter territoriales, je préfère. Plus la région. Territoriale. L'Eurométropole de Metz, par son positionnement stratégique et son engagement européen, ne peut se satisfaire de retards répétés et de choix politiques qui ignorent ses spécificités. Et je demande donc l'accélération des projets ferroviaires transfrontaliers ainsi que la prise en compte équitable de notre territoire dans les dessertes internationales. Voilà la motion qui vous est proposée. Est-ce qu'elle appelle à débat? Alors, Madame Sallusti, puis Madame Leduc. Alors, Madame Sallusti.
Monsieur le Président, chers collègues, nous ne pouvons pas voter cette motion en l'état. Pourquoi ? Vous interpellez la région Grand Est, SNCF Réseau, le gouvernement, pour leur demander de prendre leurs responsabilités vis-à-vis des retards pris en matière de développement des dessertes ferroviaires, transfrontalières et internationales de l'Eurométropole de Metz, bref, d'agir. On aurait aimé que cela soit de même pour la ville et l'Eurométropole, qui ont manqué d'ambition et de stratégie pour ses propres transports publics. De plus, et au-delà de ce qui est justement rappelé dans la motion, il s'agirait ici, dans cette enceinte, de construire une réelle stratégie d'influence, à la fois au niveau régional et surtout national, puisque c'est là que cela se joue. On voit bien que nos collègues nancéens ont réussi pour la ligne Lyon, comme ceux de Strasbourg, pour faire passer la ligne Paris-Berlin chez eux. Et enfin, bien sûr, on ne peut construire une véritable politique transfrontalière pour Metz et sa métropole si on ne rappelle pas la nécessité d'un équilibre de la relation Metz-Luxembourg. Car, Monsieur le Président, chers collègues, notre groupe ne peut accepter une motion relative au transport des travailleurs frontaliers sans solliciter explicitement les financements luxembourgeois. Où sont payés les impôts des 10 700 résidents dans l'Eurométropole de Metz qui se rendent chaque jour au Luxembourg et des entreprises où ils travaillent ? Qui a la charge financière des écoles, des crèches, des voiries, des collèges, des lycées, des logements, des équipements sportifs, socioculturels et culturels, la dépendance des personnes âgées et la progression du nombre de travailleurs transfrontaliers est encore amenée à se poursuivre. Les dernières études du LISER et de IDEA, qui sont des organismes luxembourgeois spécialisés, nous explique
que le Luxembourg va encore avoir besoin de nouveaux talents et qui doivent prioritairement se loger en France, car le Luxembourg est incapable de construire chez lui les logements dont ils ont besoin. C'est pourquoi cette motion n'est pas acceptable en l'état. Le Luxembourg doit enfin accepter de payer les externalités que nécessite la gestion de ses frontaliers, que ce soit pour le transport ferroviaire, autoroutier ou pour le reste, en organisant une juste répartition de la fiscalité transfrontalière avec l'Allemagne et la France sur le modèle de ce qu'elle fait avec la Belgique. Vous le savez, c'est un enjeu de plus de 10 millions d'euros annuellement pour la métropole. C'est pourquoi nous ne pourrons voter cette motion à l'état. Par ailleurs, Monsieur le Président, ne serait-il pas intéressant de compléter cette motion par la présentation à toute l'Assemblée de l'avancée des travaux du schéma express régional métropolitain? En effet, cette stratégie ferroviaire ambitieuse portée par la région Grand Est mérite de nous être présentée, car le territoire de l'Eurométropole de Metz en sera l'une des clés de voûte. Il y a dans ce schéma, c'est vrai, bon nombre de réponses à nos interrogations, notamment sur la gestion ferroviaire de notre territoire. Il serait démocratiquement nécessaire que cette Assemblée en prenne connaissance pour mieux bâtir la mobilité d'avenir à l'Eurométropole. Merci.
Merci Madame Sallusti. Madame Le Duc.
Merci Monsieur le Président. Nous ne pouvons qu'accueillir positivement une motion dont l'objet est d'exiger le développement et son accélération des dessertes ferroviaires et internationales de l'Eurométropole de Metz. Notre groupe de l'Union de la gauche et des écologistes pour Metz aurait probablement formulé cette demande autrement, en argumentant principalement sur l'urgence écologique et sociale de développer massivement les mobilités transfrontalières ferroviaires, mais sur le fond, nous soutenons l'accélération du déploiement des capacités ferroviaires pour les dessertes Metz-Luxembourg, Metz-Trèves, Metz-Sarrebruck et pour le TGV Paris-Berlin. En revanche, chers collègues, nous nous opposons fermement à la présence d'un paragraphe de la première page qui évoque le projet autoroutier de l'A31 bis en mentionnant le soutien des acteurs du Nord-Lorrain pour, je cite, « promouvoir un projet conciliant les enjeux de mobilité avec la protection de l'environnement et la qualité de vie des riverains ». Non, le soutien des acteurs du Nord-Lorrain n'est pas total et surtout le rejet par les populations locales est massif et cela depuis des dizaines d'années déjà. Je m'associe aux regrets qui ont été exprimés tout à l'heure de la présence d'une contribution à la DUP du bureau du Conseil métropolitain. Je regrette qu'on n'ait pas été consulté à ce sujet parce que vous n'êtes pas mandaté pour cela. Mais dire là que ce projet de l'A31 bis concilie les enjeux de mobilité avec la protection de l'environnement et de la qualité de vie des riverains, c'est un contresens absolu et une aberration. Le projet de l'A31 bis est un projet du passé, écocidaire, coûteux, inutile et imposé. Un projet du passé parce que ce dossier a été initié dans les années 80, déjà rejeté à l'époque, vous l'avez dit vous-même, les débats ont déjà eu lieu maintes et maintes fois et le train ne passera pas trois fois comme vous l'avez dit. Il est aujourd'hui complètement obsolète dans le contexte de dérèglement climatique que l'on vit, alors que les luttes pour sauver le climat et le vivant se multiplient partout. C'est un projet écocidaire qui va encore artificialiser les sols, détruire des pans de forêt, des corridors écologiques, menacer la biodiversité et notamment des espèces menacées, augmenter les pollutions atmosphériques et sonores et dont les impacts sanitaires et donc les impacts sanitaires sur les populations locales. Franchement, avec la période de canicule qu'on vient de passer, particulièrement éprouvante et notamment pour nos concitoyens les plus vulnérables, liée directement à l'accélération du dérèglement climatique par l'inaction et le déni politique, comment peut-on aujourd'hui encore défendre un tel projet ? C'est une aberration. D'autant que c'est un projet inutile. Inutile car le gain de temps estimé de déplacement est d'une dizaine de minutes et que c'est absolument dérisoire. D'autant qu'on le sait, par de multiples études, plus de routes génère plus de trafic. C'est ce qu'on appelle le trafic induit, qui est largement documenté sur de précédents projets. Augmenter les infrastructures routières augmente le nombre de voitures et de camions jetés sur les routes et donc augmente les pollutions sans solutionner le problème initial, bien au contraire. C'est un projet extrêmement coûteux pour les finances publiques, d'une part, car il s'agit d'un projet à près de 2 milliards. Et c'est un montant exorbitant et injustifiable, sans compter les impacts économiques sur les emplois locaux et le tissu économique local, notamment la zone d'activité de Sainte-Agathe, et coûteux pour les usagers qui devront s'acquitter d'un péage à 8 euros. Donc c'est un projet particulièrement antisocial. Enfin, c'est un projet imposé. Les associations locales, collectifs, organisations syndicales et politiques, les collectifs d'habitants sont mobilisés parfois depuis des dizaines d'années contre ce projet. Les populations directement impactées sont mal informées et je salue d'ailleurs le travail des associations et des collectifs d'opposants qui font un travail remarquable d'information. Alors, chers collègues, malgré la pertinence de ces très nombreux arguments, je ne m'attends pas à vous convaincre, là, ce soir, de ne pas soutenir ce projet autoroutier et je regrette de ne pas vous en convaincre. Mais je peux au moins vous convaincre que mentionner ce projet routier dans une motion qui souligne l'urgence de développer les dessertes ferroviaires transfrontalières est totalement hors sujet et ainsi vous convaincre de supprimer ce très court paragraphe qui nous empêche de voter pour cette motion. Je propose donc la suppression de ces quatre lignes et notre groupe pourra ainsi voter dans ce cas pour la dite motion. Je compte sur votre sens du compromis. Merci.
Bah, Madame Le Duc, non, nous ne retirons pas cet alinéa sur la 31 parce que nous raisonnons en termes de complémentarité et pas d'opposition. Il y a 120 000, et non plus 100 000 comme on a écrit aujourd'hui, peut-être il y a quelques années, c'est 120 000 travailleurs frontaliers. Nous avons des dizaines de milliers de nos concitoyens qui galèrent tous les jours sur l'autoroute parce que, en vous suivant à l'époque, vous, vos prédécesseurs, nous n'avons pas réalisé la 32. Et ils peuvent d'ailleurs tous les jours vous en remercier. Bon, et pour nous, et je suis un fort défenseur du ferroviaire, mais je sais que même si nous atteignons rapidement les objectifs que je défends pour que nous soyons à 22 000 passagers, ce sera 22 000 passagers au moment où nous serons à peu près à 130 000 frontaliers. Donc c'est dans une complémentarité entre le transport ferroviaire et le transport routier que nous trouverons la solution. Et dans les solutions d'ailleurs autoroutières, il y a celle de créer des couloirs bus pour des navettes qui sont moins vertueuses que le train mais qui sont davantage que voitures particulières pour encourager le covoiturage. Vous manifestement, vous préférez les gens au RSA, au revenu universel chez nous, plutôt que chez nous les gens qui travaillent au Luxembourg. Et c'est ce qui nous divise profondément. Alors, Madame Sallusti, je suis très déçu par votre intervention. Autant je ne suis pas étonné de celle de Madame Le Duc, elle était plus modérée même que je pouvais l'attendre. Très déçu de votre position qui porte sur le ferroviaire. D'abord, vous êtes dans une opposition sectaire qui n'était pas celle auquel votre groupe m'avait habitué. J'avais tendance même, en vous regardant, à demander à mon prédécesseur de sortir de votre corps. Voilà. Tellement j'avais l'impression de l'entendre pour ce qui est devenu chez lui une obsession. On a d'abord rappelé sur le phénomène luxembourgeois. 120 000 salariés à une moyenne de 3 000 euros net par mois. C'est 360 millions d'euros de pouvoir d'achat sur globalement le sillon mosellan. Voilà, et bien pas le Rhin, le sillon mosellan. Dans quel état de paupérisation serions-nous si nous n'avions, on peut regretter, quelques boutiques vides en centre-ville. À quoi ressembleraient toutes les villes du sillon mosellan sans ces 360 millions d'euros de pouvoir d'achat chaque mois qui s'ajoutent au pouvoir d'achat issu de l'économie endogène. Dans votre esprit, et c'est un esprit très, très marxisant, là, de ce point de vue, bien sûr, l'employeur est un exploiteur. L'employeur est un exploiteur, et il doit réparation. Ben, moi, je crois qu'un employeur qui verse un bon salaire est plutôt un bienfaiteur. Voilà. Et donc, je ne m'inscris pas dans la relation à Luxembourg, comme mon prédécesseur, sous le prisme du préjudice et de la réparation du préjudice. On parle des infrastructures frontalières. Sur la première tranche du protocole de 2018, qui dont on arrive enfin à aboutir, il va aboutir entre 2023 et 2024, et on y arrive enfin en raison du retard de livraison du matériel ferroviaire et des rames à deux étages, mais pour nous porter de 9 000 à 12 000 places, combien a investi la région Grand Est sur les infrastructures ? 54 millions d'euros. Combien a investi le Grand-Duché du Luxembourg ? 58 millions d'euros. Combien a investi l'État français ? 4 millions d'euros. Voilà. Après, depuis 2018. Et c'est vous voilà, qui allez faire la leçon aux Luxembourgeois en expliquant qu'ils peuvent y passer. Ils étaient prêts à payer beaucoup plus. Ils avaient mis tout de suite 200 millions d'euros sur la table en rajoutant 100. En disant c'est la partie luxembourgeoise, il faut la partie française. La région apporte sa contribution. Ce qui a toujours manqué, c'est la contrepartie de l'État français. Et dans le contrat de plan qui s'annonce, dont le volet mobilité n'a été signé qu'en 2025, alors que c'était le contrat de plan 2021-2027, et sur le volet universitaire, on l'a signé en 2021 ou 2022. Eh bien, il n'y a que 100 millions d'euros au total pour payer les 500 millions d'euros d'investissement nécessaires pour que nous passions à 22 000 places. Alors on dit effectivement c'est 2021-2027, sauf que si en 2025, il ne sera pas réalisé avant au moins 2030. Donc on ne sera jamais à échéance 2030 aux 22 000 places. Si on y est en 2035, en 2040, on aura de la chance. Et d'où vient la faille ? C'est de la partie française, pas de la partie luxembourgeoise. Donc il faut aussi avoir l'honnêteté de le dire. Voilà. Plutôt que de faire le Luxembourg le bouc émissaire de nos malheurs et de notre incapacité à financer la modeste contrepartie pour l'État français qui doit sur des infrastructures qui relèvent de la responsabilité nationale et pas de la responsabilité locale. Ça, je ne peux pas admettre ce discours. Je ne reviens pas sur l'entre-intermis, on en a parlé. Et ce qui me désole, Madame Sallusti, c'est que vous dites « oui, mais vous ne faites pas entendre ». Je vais vous dire, moi j'étais un parlementaire du camp opposé à celui du maire de Metz quand vous étiez son adjoint. Je l'ai toujours soutenu, nous sommes toujours accordés sur tous les grands dossiers nationaux. Nous avons toujours défendu ensemble les projets de grandes infrastructures, comme les projets locaux, comme les labellisations. Nous avons toujours porté ensemble les dossiers. Et même l'opposition municipale de l'époque ne s'opposait pas, comme vous avez su le faire, par exemple, pour essayer de compromettre la candidature de Metz comme capitale française de la culture. Cette opposition est tellement systématique qu'elle interdit tout consensus. Et vous plaignez que d'autres, les Strasbourgeois, savent établir des consensus, et même les Nancéens aussi. C'est tellement vrai que sur l'A31 bis, quand on est socialiste à Nancy, on est pour, et quand on est socialiste à Metz, on est contre. Voilà. Donc vous votez contre des motions, des positions, des projets que défendent la majorité de la ville de Nancy et celle du Grand Nancy. Parce que pour vous, c'est plus important de vous opposer à nous dans cette Assemblée que de dire on fait tous bloc ensemble pour notre territoire. Je veux simplement dire que je le regrette vraiment profondément. Sur ce, nous passons au vote. Alors, qui vote contre ? Alors, les deux groupes de gauche. Non. Il n'y a que le groupe UGE. Voilà. Qui s'abstient. Donc, le groupe, autre groupe du nom de la gauche. Et M. Grégoire. Voilà. Je vous remercie. Alors maintenant, pour terminer, nous avons une question. Voilà. De M. Chomard.
Je vais vous demander de souffrir encore un peu, désolé, mais voilà, c'est une question orale, je crois d'ailleurs qu'il n'y en a pas eu depuis longtemps, ça doit être la première du mandat et même la première depuis quelques années. La question porte sur la valorisation des déchets du bâtiment et vise ne simplement qu'à obtenir des renseignements assez factuels sur la question. Dans la métropole de Metz, bon, vous savez qu'il y a un grand nombre de déchets ménagers et professionnels qui font l'objet de ce qui s'appelle la REP, qui est la responsabilité élargie du producteur, qui associe les producteurs, les distributeurs et les consommateurs d'un produit pour les rendre responsables de sa gestion après utilisation, notamment au stade ultime, c'est le principe du pollueur-payeur.
Et on a une loi qui est la loi AGEC de 2020 qui a élargi le nombre de filières à celle qui est très importante en termes de volume des déchets du bâtiment. Donc les métaux, les plastiques, les plâtres, les bois ou les laines minérales. Et plusieurs éco-organismes ont été créés pour collecter des contributions auprès des artisans et des entreprises, éco-maisons, éco-minéraux, etc. En échange de quoi il est procédé d'une part à un reversement aux collectivités pour certaines filières pour participer aux coûts de gestion et d'autre part à une reprise des déchets selon les cas par des organismes pour les acheminer vers des déchetteries professionnelles qui sont spécialement créées à cet effet. Malgré tout, il y a quelques questionnements qui sont apparus ces dernières années sur l'efficacité réelle de la REP pour les déchets du bâtiment et notamment pour la réduction des dépôts sauvages de déchets qui se sont multipliés ces dernières années. Outre que les éco-organismes n'ont manifestement pas trop de scrupules souvent à ponctionner les entreprises de manière brutale et inopinée, ça d'une part, le nombre de déchetteries professionnelles n'est pas toujours satisfaisant en raison du manque de foncier évidemment et certains organismes commencent même à renoncer à la collecte. Alors j'ai trois questions s'agissant des déchets du bâtiment. Je ne sais pas si c'est vous, monsieur le président, qui répondrez ou Laurent Bovy, que je salue d'ailleurs, qui répondra. La première, c'est est-ce que le nombre de déchetteries dans la métropole, qui est actuellement de 8, je crois, est satisfaisant? Est-ce que celle de Borny suffit à traiter le volume des déchets non ménagers? Autre question, quel est l'état du traitement des déchets du bâtiment dans la métropole? Est-ce qu'il existe des dépôts sauvages identifiés? Et si oui, comment est-ce que la métropole lutte contre? Et enfin, est-ce qu'il est question que les filières du bâtiment reverse à la métropole des fonds pour le traitement de ces déchets? D'après ce que j'ai pu voir, mais je peux me tromper dans le DOB et dans le budget primitif, je n'ai vu qu'une contribution d'un éco-organisme pour les équipements électriques et électroniques, mais il est possible aussi que la filière du bâtiment les reverse à Aganis directement. Ce sera à vous de répondre. Merci.
Bien, merci monsieur le conseiller métropolitain. Donc pour répondre à votre première question, l'accès à nos déchetteries est gratuit pour les ménages. Je le rappelle, l'accès aux déchetteries est possible, sauf à Peltre, pour les entreprises, commerces, artisans, associations, administrations, à la condition d'ouvrir un compte et de s'acquitter du paiement d'un abonnement. La limite fixée est de 3 mètres cubes par jour et par déchetterie. L'accès est interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Les déchets dangereux des professionnels ne sont pas admis, pneumatiques, huiles et déchets d'équipements électriques et électroniques. Les professionnels disposant de volumes importants de déchets ou de déchets de type électrique et électronique qui ne sont pas acceptés à nos déchetteries peuvent les déposer sur le site de l'Actipôle. Cette plateforme de valorisation des déchets gérée par Aganis dispose des tarifs les plus attractifs pour les professionnels que les déchetteries de la métropole, 30 € le mètre cube contre 47 € le mètre cube. Ce site ne rencontre aucune difficulté d'acceptation des volumes de déchets apportés par les professionnels. Nous disposons de 8 déchetteries qui permettent de couvrir le territoire métropolitain et également des besoins de Mademoiselle et du Haut-Chemin Pays de Penge. Nous souffrons de surfréquentation à la déchetterie de Metz-Nord. Aussi, nous avons inscrit dans notre ébauche de PPI il est inscrit dans le PPI déjà engagé avec Aganis, sur la période 2027-2033, l'extension et la modernisation de 4 déchetteries et la création d'une nouvelle déchetterie située au nord de l'agglomération. Sur la seconde question, quel est l'état du traitement des déchets du bâtiment dans la métropole? Existe-t-il des dépôts sauvages identifiés? Et si oui, comment la métropole y met un terme? 70% des déchets produits sur la métropole sont issus du secteur du BTP. C'est le premier gisement en masse sur la métropole, d'après le diagnostic territorial de l'économie circulaire réalisé par l'Aguram en 2023. Cette étude a permis de dresser un état des lieux des filières actuelles de valorisation. Par exemple, pour les gravats concassés ou encore de voirie, leur réemploi, leur recyclage s'effectue fréquemment au sein des chantiers de voirie de la métropole, par exemple. Dans le cadre des clauses environnementales de notre accord cadre voirie-ville-métropole, nous mentionnons explicitement que le titulaire s'engage dans son offre sur un pourcentage de produits intégrant des matières recyclées. L'engagement porte sur un pourcentage annuel de 40% dans toutes les couches de forme et de 30% dans toutes les couches de roulement. Pour le bois, il est trié sur la plateforme Aganis et valorisé en biomasse, soit en biomasse, soit en panneaux. Les métaux sont recyclés en fonderie. Le plâtre est transformé en nouvelles plaques. Depuis 2025, nous menons une étude portant sur le réemploi des matériaux de seconde œuvre pour améliorer leur valorisation. Il s'agit de structurer davantage les filières de réemploi en fonction des types de déchets, sanitaires, charpentes, poutres métalliques. Des acteurs du réemploi sont déjà présents sur Frescati ou sur Messnor. Il est essentiel que nous nous appuyions sur l'existant pour améliorer la valorisation de ce type de déchets. Depuis 2 ans, l'Eurométropole de Metz est adhérente de l'association La Remise. Elle porte un pacte réemploi à l'échelle du Grand Est pour structurer la filière. À la ville de Metz comme à l'Eurométropole de Metz, nous incluons systématiquement dans nos marchés des clauses de réemploi et d'utilisation de matériaux recyclés. En fonction du type de travaux et des matériaux nécessaires, ces taux peuvent avoisiner 15% pour les réemplois et 25% pour les matériaux recyclés. Sachant que nous devons également prendre en compte des considérations extérieures comme les avis de l'ABF. Il s'agit de ratios cumulatifs et non d'alternatives entre le réemploi et le recyclé. Sur la question des dépôts sauvages, les communes et la métropole en sont victimes et nous ne sommes pas un cas isolé. Et sur ce sujet, il s'agit d'une compétence communale dans le cadre des pouvoirs de police. Toutefois, lors d'épisodes importants, l'Eurométropole, en vertu du principe de solidarité venant en aide aux communes qui n'avaient pas la capacité de traiter seules ce problème, et c'est d'autre part l'une des missions que nous confions, parmi d'autres, à la police métropolitaine. Rappelle le cas de Jury qui avait été victime d'un dépôt très important de déchets du BTP. Concernant votre dernière question, est-il question que les filières du bâtiment reversent à la métropole des fonds pour le traitement de ces déchets? Actuellement, on ne constate dans le budget primitif que les recettes des éco-organismes pour les équipements électriques et électroniques, à moins qu'Aganis en bénéficie déjà. Nous avons conventionné avec les éco-organismes en lien avec les déchets ménagers dans le cadre des collectes et des déchetteries pour les emballages ménagers, les journaux, revues et magazines, les piles et accumulateurs, les textiles, linges de maison et chaussures, les articles de sport et de loisirs, les articles de bricolage et de jardinage, les jouets, le mobilier, et une convention est en cours pour les déchets diffus spéciaux. Sur le sujet plus particulier du versement des entreprises du BTP directement à l'EMM, la situation est bloquée au niveau national. Les discussions sont pour l'heure suspendues pour des raisons d'accords financiers. Les sociétés du BTP sont pour le moment en désaccord avec cette possibilité car elles estiment avoir déjà leur solution. Pour l'heure, donc personne ne reçoit quoi que ce soit de la part de l'éco-organisme dans ce secteur, les entreprises préférant recourir à leurs propres solutions et nous étudierons, je veux dire, les possibilités dès lors que la situation sera débloquée au niveau national. Voilà. Bien, eh bien écoutez, je lève la séance et vous souhaite une belle fin de soirée.